Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, c'est la fin de la semaine Russie. Ce vendredi, on va parler justement de ce qui s'est passé hier soir avec Monsieur Macron. Il est passé sur TF1, France 2, seulement 8 millions d'audience. Très peu de monde le regardait, mais malgré tout, des informations sont sorties. Et donc du coup, on va décortiquer cette interview. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'infime honneur et le grand plaisir de recevoir notre ami François Martin, merci. Géopolitologue, merci, parle six langues, vous parlez six langues, tiens, lesquelles déjà ?
Français, déjà j'essaye, hein.
Ouais.
Anglais, espagnol, j'habitais en Espagne, portugais, j'habitais au Brésil, italien, parlant espagnol, portugais, italien c'est facile, j'ai appris l'arabe après, sauf que je ne le parle pas bien parce que... Je m'en servais surtout pour écouter ce que disaient mes clients libanais en Afrique.
Ah, je pensais que c'était pour draguer les filles.
Qui disaient, c'est pas cher, mais du luxe, c'est très cher. Alors je leur répondais en arabe et après, ils osaient plus.
Enfin, ça, c'est une bonne méthode, tiens, pour le coup. Alors, vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez cofondé le cercle Eleutheria.
C'est ça.
Et votre dernier livre, L'Ukraine, un basculement du monde. Tiens, montrez-le. Voilà le livre et notre ami, un basculement du monde.
Un enfant qui va vers l'avenir et qui se pose plein de questions. Je crois que c'était bien.
Mais pourquoi l'Ukraine, ce basculement ? C'est-à-dire que, est-ce que l'Ukraine, c'est une forme de plaque tournante de quelque chose Est-ce que géographiquement, l'Ukraine est une cible peut-être pour l'Ouest ?
Géographiquement, c'est déjà le cas. Historiquement, c'est le cas. Et surtout, en fait, ce que je pense, moi, c'est qu'il y avait déjà, en fait, une espèce de fracture qui était déjà existante entre le Nord et le Sud, sauf qu'on s'en était pas rendu compte. Et l'Ukraine a été l'élément qui a accéléré très violemment cette bascule et cette différence. Et on voit la même fracture à Gaza, d'ailleurs. On voit la même fracture en Afrique. C'est ce que j'appelle un processus de décolonisation. Pour moi, c'est un processus de décolonisation. Parce que Poutine, puis après on parlera de Macron, mais Poutine en fait se présente comme un décolonial d'une certaine façon. Pour lui, c'est une guerre du faible au fort, puisqu'il combat contre tout l'Occident réuni. Et c'est pour ça que le Sud l'a rejoint et l'a soutenu.
Quoi, c'est pas une guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre Est-Ouest, on revient à la guerre froide.
Complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait... j'ai expliqué plusieurs fois que pour moi, on fait une erreur d'analyse lorsqu'on dit que la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée en 45. En fait, elle s'est arrêtée en 91 parce que le véritable ennemi des États-Unis, c'est la Russie, puisque la Russie a la profondeur stratégique, a une idéologie contraire à la sienne, etc., etc., et que la Russie est quelque part le concurrent par rapport à l'Europe. J'ai expliqué que en fait, pour les États-Unis, l'Europe leur appartient. Parce que ils ont battu successivement les Anglais, puis les Allemands, les Espagnols, la guerre contre l'Espagne, qui a perdu d'ailleurs toute sa stature internationale, puisqu'elle a perdu les Philippines. Donc, ça a été une catastrophe pour l'Espagne. C'est devenu un petit pays régional, alors que c'était un grand pays. Ensuite, ils ont battu l'Allemagne et l'Italie. Ensuite, ils ont rebattu la France et l'Angleterre au moment de Suez en leur disant « Vous rentrez chez vous ». Donc, ils ont un sentiment par rapport à l'Europe qui est un sentiment de possession. Ça leur appartient. Par contre, les Russes, eux, ils pensent qu'eux appartiennent à l'Europe, puisqu'ils en ont toujours fait partie, leurs élites parlaient et parlent encore français, etc. Donc, eux, ils ont un sentiment d'appartenance et les autres ont un sentiment de propriété. Donc, il y a l'Europe en milieu et il y a ces deux pays dont la rivalité... Enfin, je pense que le plus mauvais jour qui est arrivé dans toute l'histoire de la Russie, c'est le jour où les États-Unis ont décidé de se créer... Parce qu'on a créé un système qui est Rome contre Carthage, Sparte contre Athènes. Ça ne peut se résoudre à terme que par la disparition d'un des deux empires. Ce qui ne veut pas dire que cette disparition soit forcément militaire, ni qu'elle soit violente, mais qu'elle soit à court terme. Il y a une rivalité par rapport à l'Europe. Donc le but des Américains, c'est de séparer l'Europe de la Russie pour que la Russie ne vienne jamais dans l'Europe. Et le but des Russes, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter d'en être séparés puisqu'ils en font partie. Donc, leur passage à l'Est est un passage momentané. Mais eux, ils se sentent comme des gens, des Européens, au plus profond d'eux-mêmes.
Alors, on va parler de tout ça, mais avant ça, on va faire le petit tour de table. À votre droite, Serge Federbusch, ancien conseiller de Paris, non, conseiller d'arrondissement, pardon, là je t'ai rajouté un peu de grade,
ben ouais.
Essayiste, éditorialiste.
Merci, ça aurait été un plaisir de courte durée.
Comment ça va, cher Serge ?
Très bien.
Donc, t'as entendu ça, j'ai l'impression que t'es pas trop d'accord.
Si, si.
Si t'es enfin, d'accord ?
Oui et non. Enfin,
pourquoi oui et non ? C'est quoi le nom, tiens ?
Je pense pas que la rivalité, enfin, il y a plusieurs éléments de désaccord, en tout cas de nuances. Je pense pas que la rivalité entre les États-Unis et la Russie soit aujourd'hui le phénomène déterminant dans les relations internationales, et je crois pas que ça soit la préoccupation première des Américains. Je pense que depuis 1991 et de plus en plus, c'est la Chine qui a supplanté dans l'univers, enfin dans l'univers intellectuel des élites américaines le rôle de grand méchant, de menace. De très loin, aujourd'hui, je pense qu'ils considèrent que la Russie n'est plus qu'un acteur
presque
mineur de l'affrontement et du contrôle de la planète.
Ben on va parler, ça va faire l'objet du grand débat.
Oui, je pense pas.
En face, notre ami Jérémy Marquis, vous l'avez beaucoup aimé dans sa première apparition, donc il revient, Jérémy, président du mouvement, lequel ?
Tiens, Français-vous.
Français-vous, voilà. Je cherchais en fait, comment il s'appelait, je ne me rappelais plus. Eh bien, j'ai trouvé, mais en fait, comme j'écris très mal.
Ah bah voilà. Français-vous, c'est pas francisez-vous.
Voilà. Français-vous. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le mouvement Français-vous ?
Eh bien, c'est un mouvement où on rassemble la communauté qu'on a sur les réseaux sociaux, qui pense un petit peu comme nous, ouais. Et pour justement faire des remontées de terrain, des témoignages. Voilà, c'est un moyen de rassembler, on va dire.
C'est des jeunes surtout ?
Oui, surtout des jeunes, quoique il y a tout âge quand même.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et des jeunes qu'on trouve qui viennent sur TikTok, en fait.
Oui, c'est ça, qui nous suivent sur les réseaux sociaux et voilà et qui après passent sur le site pour notamment faire des propositions.
Bah justement, voilà. TikTok, c'est un réseau social où, globalement, l'ensemble des partis politiques y sont,
ouais.
Sauf la droite. La droite, elle est vachement minoritaire.
Ah oui, il y a une gauchisation de TikTok extraordinaire. C'est-à-dire que la gauche est omniprésente dans les vidéos, dans les tendances, etc. Et la droite est un petit peu mise à l'écart, on va dire. Enfin, c'est un petit peu la même tendance sur les autres réseaux sociaux d'ailleurs, à part sur X. Voilà, je pense que le travail justement de idéologique, on va dire, sur TikTok est important. Voilà.
Bon bah très bien, c'est un beau travail et il faut continuer. À votre droite, notre ami Nicolas Stocker, patron d'émissions sur Radio Courtoisie, libre journal de géopolitique profonde et puis d'autres libres journaux dont je ne me rappelle jamais les noms. Comment ça va ?
Bah écoute, ça va, et puis là, on est entre amis.
Ah bah oui.
Je n'ai que des bons clients de mes livres journaux. François Martin, je l'ai déjà eu sur un livre journal de géopolitique profonde. Bon, Serge Federbusch, ça fait... doit faire 10-12 ans que je suis sur Radio Courtoisie, je l'ai toujours invité. Et alors, cette petite pépite là que tu nous as découvert, Mike, était pas plus tard que mercredi soir, où il a dû subir les foudres de Pierre Jovanovic.
Ah bon, les foudres de Pierre Jovanovic ?
Qui ne subit pas les foudres de Pierre Jovanovic mercredi soir dans la résistance française, et il s'en est très bien tiré.
Bon, Pierre Jovanovic sera là au mois d'avril, il va parler de son dernier bouquin, 888.
Exactement, après voilà. 666, 777, 888.
Le prochain, 999.
Question que je ne lui ai pas posée, il faudra que tu lui poses.
Ah, je lui poserai. Merci, cher Nicolas, en plus tu vas éditer, donc ça c'est cool. Pas trop long aussi, ou il y a combien de tomes là ?
Non, mais alors justement, c'est tellement embrouillé, il nous a tellement embrouillé l'esprit Macron avec l'ambiguïté stratégique que j'ai même pas été capable de faire une chronique structurée. Donc pour la première fois, je ferai une chronique sans notes.
Bravo. Est-ce qu'on va rester assis ou est-ce qu'on va se lever ?
Bravo. vous êtes déjà plus de 1300 personnes en même temps, rien que sur YouTube. Merci à vous de votre confiance. Donc, vous étiez d'accord un peu avec ce qu'a dit notre ami
oui,
Serge ?
Oui et non. Je suis d'accord dans la mesure où, dans l'esprit des Américains, c'est clair que la guerre contre la Russie agissait dans leur esprit comme un proxy de la Chine. C'est-à-dire, c'était plutôt pour embêter les Chinois qui voulaient non pas détruire la Russie parce qu'on ne détruit pas la première puissance nucléaire du monde, mais l'affaiblir. Mais moi, je pense qu'en fait, le véritable ennemi, je vais dire quelque chose qui va étonner les gens, le véritable ennemi des États-Unis, c'est ni la Russie, ni la Chine, c'est l'Europe, en fait.
Ah bon ?
L'Europe est sous leur coupe et il faut absolument qu'elle le reste. Je vais m'expliquer, c'est très simple. Si la Chine envahit Taïwan, est-ce que les États-Unis tombent ? Ils ne tombent pas. Si la Russie, même si la Chine attaque, je veux dire, les Philippines, le Vietnam, c'est pas stratégique. C'est stratégique, mais c'est pas existentiel pour les Américains. Si la Russie perdait ou si la Russie gagne, la Russie va gagner. c'est pas existentiel. Par contre, si l'Europe se retire de la tutelle américaine, ça, c'est existentiel. Et ça existe, ça explique une partie de ce qui se passe, et on va revenir. Alors, je peux développer, mais
on va en parler pendant tout le débat.
Je pense que on ne voit pas leur véritable ennemi parce qu'il est dans leur griffe, mais c'est celui-là. D'accord. Celui-là, il est absolument existentiel. Depuis 1945, ils ont fait tous les efforts qu'ont fait Éric Branca pour mettre l'Europe sous leur coupe, à tel point que Jean Monnet, rappelle Éric Branca dans son livre, avait écrit à Roosevelt « Détruisez De Gaulle ». Parce que De Gaulle voulait une Europe indépendante. Il a écrit à Roosevelt « Détruisez De Gaulle ». Donc ça veut dire que pour eux, la tenue dans leur patte de l'Europe, c'est absolument existentiel. Voilà.
On va revenir à cette discussion, mais avant ça, on a eu l'interview de M. Macron hier soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Eh bien, je pense qu'on regarde tous le doigt au lieu de regarder la lune, je dirais. Pour deux raisons. Il y a deux lunes, en fait. Il y a une lune internationale et une lune en politique intérieure. Et on ne les voit pas. Et là, le doigt, c'est l'Ukraine. Et en fait, le problème, c'est plus l'Ukraine aujourd'hui. Parce que la guerre d'Ukraine, elle est terminée, la guerre d'Ukraine. La moyenne d'âge de l'armée ukrainienne est de 45 ans. Donc, je ne vois pas comment on peut reconstruire une armée, même avec des crédits, même avec des armes, même avec tout ça, quand on est une armée où il y a des types de 30 ans et des types de 60 ans dedans. L'armée, elle a été mangée par la contre-offensive, elle n'existe plus. Ils ont passé 8 ans, entre 2014 et 2022, à reconstruire une armée. Donc, ils ne vont pas reconstruire en 6 mois une armée. Donc, c'est du bluff. Ça ne tient pas. Le véritable problème, ce n'est plus l'Ukraine, c'est l'OTAN. Parce que maintenant, comme les Russes vont gagner, les Russes ont virtuellement gagné, la question que tout le monde se pose, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN ? Donc là, vous avez deux types de réponses. Les gaullistes, je dirais, qui vont dire, il faut se débarrasser de l'OTAN puisqu'ils nous ont rien rapporté, indépendance. Et puis vous avez ceux qui sont les atlantistes qui vont dire, jamais on a eu autant besoin de l'OTAN que depuis que les Russes sont à nos portes. Donc on va répéter, les Russes sont à nos portes, sont à nos portes, sont à nos portes. C'est ce que fait Macron, c'est l'objectif des accords bilatéraux qui sont en train d'être signés. Et je pense que moi, si j'étais les États-Unis, je continuerais avec la propagande par les officines de propagande pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, parce que plus je tiens les Européens, plus les Européens meurent de trouille, plus on peut dévitaliser l'Europe, manger l'industrie.
C'est de la communication, c'est-à-dire
complètement.
Avant élection européenne, on communique guerre.
On communique maintenant, on communique après, on communique toujours, parce qu'il faut que les Européens soient terrorisés au point où ils se disent jamais est-ce qu'on n'a pas envie de se libérer de ces oppresseurs, je vais dire. Voilà, pour le dire comme ça. Donc, si on regarde les choses comme ça, la question, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Mais j'entends aucun analyste qui dit, attendez, l'OTAN vient de perdre la guerre, qu'est-ce qu'on fait avec l'OTAN ? Il faudrait quand même que certains se posent cette question, ça paraît normal, qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait du perdant ? Il n'a perdu personne. Alors ça, c'est la lune de politique internationale. Et l'autre, c'est la politique interne. Je veux dire, Macron sait très bien qu'il n'enverra jamais des troupes. Jamais. Ni personne ne le laissera faire. On n'a pas de munitions, on n'a pas d'armes et on va s'attaquer à la meilleure armée du monde. Parce que c'est la plus aguerrie. Et en plus, sur son territoire, là où elle a ses terres, où elle sait combattre, parce que la Russie et l'Ukraine, c'est pareil. Donc, on va pas aller... On veut refaire une troisième campagne de Russie, après celle de Napoléon et celle d'Hitler.
Et puis envoyer des troupes, ça signifierait la Troisième Guerre mondiale, j'imagine.
Oui, probablement, mais je veux dire, c'est même pas le cas. Donc, Macron, il est en train de faire, de crier devant un tigre avec une cage entre
les
deux. Mais
pourquoi il le fait ? Est-ce qu'il veut avoir le rôle de leader occidental ?
Mais c'est bien plus fort que ça. Est-ce qu'on parle des agriculteurs ? On parle plus. Est-ce qu'on parle de la dette ? On parle plus. Est-ce qu'on parle de la désindustrialisation ? Est-ce qu'on parle de notre isolement catastrophique sur le plan international ? Tout ce qui faisait l'ensemble des critiques qu'on faisait à Macron jusqu'à présent, on n'en parle plus du tout. Mais plus du tout, du tout, du tout. On est tous sur le doigt en train de dire « Ah oui, l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine », mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la situation intérieure de la France. C'est à ça qu'il faut revenir. Alors lui, il nous fait un grand numéro de tralala. Il nous fait une opération de communication, de désinformation que je trouve magistrale. et il la pousse, il va la pousser jusqu'au bout pour hystériser. Mais le problème, c'est la situation intérieure de la France. On parlait que de ça, et maintenant on n'en parle plus du tout. Il est sorti complètement de l'isolement dans lequel il
était. C'est-à-dire que le macronisme, c'est essentiellement balancer des contre-feux.
Bah, c'est ce qu'il a fait au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, c'est ce qu'il a fait. Il a fait rentrer dans les Gilets jaunes les Black Blocs, et après il a... Macron, c'est un type qui est très fort pour organiser les systèmes de boucs émissaires. Il monte des personnes inquiètes, des groupes inquiets contre des boucs émissaires qu'il choisit. Au moment des Gilets jaunes, il exploite une peur primale. Il exploite très bien les peurs primales. La peur primale, c'est la peur des bourgeois contre les jacqueries populaires. Donc, ces Gilets jaunes qui étaient sympas et qu'on aimait bien, il a infiltré les Black Blocs et après, on le sait, il a donné l'ordre de taper sur les Gilets jaunes et pas sur les Black Blocs. Donc, c'est devenu de plus en plus violent. Et les bourgeoisies ont dit, on préfère Macron parce qu'on veut l'ordre. Hop, il a gagné comme ça. Il a isolé les Gilets jaunes. Il nous a fait le même coup au moment du vaccin. Les non-vaccinés, il les a mis au pilori. Il a exploité la peur primale des grandes pestes, du choléra, etc., de l'histoire. Alors tout le monde a dit « Oh là là, oh là là !» Maintenant, on sait que les trois quarts des gens qu'on a vaccinés n'avaient pas besoin d'être vaccinés. Et là, il nous fait le même coup, parce que les grandes peurs, une des grandes peurs de l'Occident, c'est les Huns, les Uhlans, les barbares de l'Est, voilà. Le péril jaune, les barbares de l'Est, etc. Donc, il nous refait le même coup, exactement le même coup. Et c'est une opération de com.
Oui, mais cette opération de com...
Sinon, ça ne tient pas la route.
Oui, mais cette opération de com est quand même agrémentée de grandes réunions internationales avec les Allemands, les Polonais.
Oui, oui. Oui.
Est-ce que ça ne va peut-être pas au-delà de cette com?
Disons que non seulement il fait une opération de politique intérieure, mais également il s'insère dans la politique extérieure américaine. Et ça, c'est juste, puisque le but, c'est d'abord de montrer qu'on n'est pas en caleçon, surtout quand on l'est. Je dirais que c'est surtout ça. Donc faire des réunions internationales en disant qu'est-ce qu'on va faire, c'est très bien ce qu'on va envoyer des Taurus, alors qu'on sait très bien qu'on n'enverra jamais des Taurus, mais on le dit, etc. Ça permet d'habiller un peu et de masquer
les Taurus, c'est quoi exactement?
Les missiles allemands.
D'accord.
Pour lesquels cette réunion des trois militaires là, de haut rang là, qui discutaient entre eux. L'avis d'ailleurs de Xavier Moreau que j'écoutais tout à l'heure, c'est que en fait, ce sont des messages. Le fait que cette réunion ait eu lieu, ce qui est incroyable, dans un réseau qui n'était pas protégé, et donc les Russes l'ont attrapé et l'ont mis en ligne, c'est en fait un message, à son avis, des militaires qui disent stop. Voilà. De même que l'article de Marianne qui dit on n'a pas les moyens. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Alors là où je pense qu'il y a un risque, ce n'est pas de notre côté. Parce que de notre côté, le jour où ils traversent la frontière, ils sont morts tout de suite. Donc ce n'est pas de notre côté. C'est du côté des Russes qu'il y a un problème. Parce qu'on oublie que, en fait, Poutine est un centriste d'une certaine façon. Parce qu'il a mis en cage les deux tigres qui menaçaient son pays. L'un, ce sont les oligarques qu'il a, lors de cette célèbre réunion de juillet 2000, leur a dit « Bon, ben maintenant, vous signez tous, vous rendez les trucs, ou sinon, c'est la Sibérie, et plus si affinité. » Et de l'autre côté, ce sont les nostalgiques de l'époque soviétique qui se disent « Quand on était grand et fort, etc., il suffisait qu'on menace quelqu'un, et puis tout le monde s'écrasait, parce qu'on était capable de vitrifier toute la planète. » Donc, il est entre les deux. Mais il y a eu, il y a deux jours, une lettre des généraux en disant je vais pas dire le mot, mais tu es une mauviette, quoi. Autrefois, jamais personne n'aurait pensé, même n'aurait osé parler des Taurus. Macron n'aurait pas osé, donc qu'est-ce que tu fous? Donc, on oublie que, en fait, même s'il est réélu à 80%, il est quand même politiquement, il peut être facilement fragilisé. Il reste parce qu'il est un balancier entre les deux. Mais si à un moment donné, les généraux trouvent qu'il est trop mou, nous, on ne voit pas ça, mais c'est la réalité, on peut se retrouver demain avec, en face de nous, un ex-général soviétique qui dise « Maintenant, les gars, c'est fini, le premier qui ouvre la bouche le vitrifie. » Voilà, donc moi, je préfère Poutine, hein.
Mais Poutine, c'est vraiment centriste, on en a parlé mardi dernier ici,
oui,
même.
Bien sûr. Il n'y a qu'à voir où il est positionné.
C'est pas François Bayrou quand même. Mais
Non, c'est un centriste, je veux dire, entre. Si on considère. Voilà. Et, je vais dire quelque chose là aussi. c'est un peu... Moi, j'habitais en Espagne. J'ai vu l'époque de Franco. Franco a fait pareil, exactement pareil. C'est-à-dire, si vous n'avez que des nationalistes avec vous, vous ne développez pas votre pays parce que vous restez entre nationalistes. Si vous n'avez que des libéraux, vous perdez le sens national. Donc, il a passé toute sa vie politique en attendant que le roi prenne la place, en faisant grandir d'un côté les libéraux pour embourgeoiser le pays, l'enrichir, etc., etc., et à conserver d'un autre côté les généraux, voilà. Et il a fait un équilibre entre les deux. Poutine fait exactement la même chose. Il fait la même chose. Et c'est ça qui lui permet à la fois de conserver son unité patriotique d'une part, et puis, quelque part, sa bourgeoisie opérante, De Gaulle a fait pareil.
Ça veut dire que les 70% de participation, là, au présidentiel, les 80%, dont c'est l'objectif, vous pensez qu'il les aura ?
J'en ai aucun doute.
Les gens sont derrière lui, vraiment ?
Bien sûr. Il les a sauvés de la faillite. Qui c'est qui expliquait tout à l'heure qu'aujourd'hui, je voyais une émission. Je crois qu'entre le moment où il a pris le pouvoir et aujourd'hui, je crois que le pouvoir d'achat a été multiplié par 2 ou 3 ou quelque chose comme ça. Donc il a sauvé le pays. Le pays était en faillite complètement. Personne n'a envie de se retrouver avec le règne des oligarques. Je dirais que c'est ça qui fait la différence entre l'Ukraine et la Russie. La Russie était un pays d'oligarques, l'Ukraine aussi. Sauf qu'en Ukraine, ce sont les oligarques qui ont gardé le pouvoir parce que le pouvoir était faible. Donc, ils ont pillé le pays. Et en Russie, il a verticalisé le pouvoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'oligarques, mais c'est pas, on ne peut pas dire que c'est une oligarchie au sens propre du terme parce que ce n'est pas l'oligarchie qui dirige, c'est Poutine qui dirige. Donc, il peut mettre en œuvre des politiques de développement, il est en train de mettre un TGV, enfin, il a tout son pays à développer, il a tout l'Est à développer, il a les clients chinois, asiatiques, etc. Il a les matières premières, il a l'uranium, il a tout ce qu'il faut. Donc, je pense qu'il n'a aucun intérêt, mais vraiment, à quoi ça lui servirait d'aller embêter les Baltes ? Pour récupérer quoi ? Pour refaire quoi ? La vieille Russie, la vieille Union soviétique, mais ça lui apporte quoi ? Et moi, c'est pas un fou, on a bien vu que c'est un type rationnel. Donc, ou attaquer la Pologne, ça lui sert à quoi ?
Est-ce que vous savez comment les Russes ont pris justement ces messages un peu belliqueux de M. Macron ?
Je dirais que la chance qu'on a, c'est qu'on a en face un président qui est, on l'a vu avec Carlson, qui n'insulte pas l'avenir, il n'insulte pas les Européens. Quand il voit qu'il commence à être un peu chaud parce qu'ils font des rodomontades, il leur dit « Attendez, vous allez prendre une bombe nucléaire » ou il fait dire par quelqu'un « Quelle est la ville que vous voulez raser en premier ?» puis ça les calme pour quelques semaines ou quelques mois. Et puis, le reste du temps, il poursuit son agenda. Son agenda, c'est de détruire l'Ukraine. Enfin, pas de détruire l'Ukraine, mais de récupérer la partie qu'il considère comme devant lui appartenir. Je pense qu'il a envie d'aller à Odessa. Mais je ne suis même pas sûr que si aujourd'hui, on lui disait, ce que tu as pris, tu le gardes, mais maintenant, Odessa, tu ne vas pas plus loin, mais en contrepartie, on te donne l'architecture de sécurité que tu nous demandes depuis 20 ans. Je ne suis même pas sûr qu'il irait jusqu'à Odessa. J'en suis même pas sûr. Pourtant, Odessa, c'est une ville symbole, fondée par la grande Catherine, etc. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il irait à Odessa. Je suis pas sûr.
Pour en revenir à la communication de M. Macron, est-ce que ça lui donne une forme de stature
Pense que oui, parce que je pense que Macron est un type qui n'a pas de personnalité politique en lui-même. Il a besoin de créer une cause. Et je pense que jusqu'à présent, il a patiné. Et c'est ça, comme il prend des premiers ministres qui sont falots, qui n'ont pas de personnalité, il ne l'aide pas à construire sa personnalité politique. Quand on pense à De Gaulle, on pense tout de suite à sa personnalité politique, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, etc. Pompidou, c'était pareil, Mitterrand, c'était pareil, Giscard, c'était pareil. Lui, il n'a pas de personnalité politique. Donc, en fait, je pense que cette opération lui sert également à construire une personnalité politique sur laquelle il va s'appuyer pour pour jusqu'à la fin de son mandat. Et je pense que le signal, il devait avoir réfléchi à ça depuis longtemps, mais le signal qui lui a fait penser qu'il fallait qu'il passe à l'attaque sur le plan médiatique, parce que c'est un déconstructeur, mais c'est pas un mauvais, c'est un très bon manipulateur, très très bon, c'est l'épisode du Salon de l'agriculture, où là il s'est dit, il faut changer le référentiel tout de suite et complètement, parce que sinon je vais me faire mettre dehors. Et je pense que c'est ce qu'il a fait.
Il a eu peur de ces mouvements des agriculteurs, peut-être.
Il a vu qu'il ne contrôlait plus la situation, mais en fait, jusqu'à présent, depuis son deuxième mandat, il n'a pas véritablement pris d'initiative. Là, aujourd'hui, c'est lui qui a l'initiative. Alors, il en a profité sur la constitutionnalité de l'avortement, sur etc. Il reprend l'initiative. Alors, ça ne va pas. Je dirais, pour des catholiques comme moi, c'est effroyable. Mais je dirais, pour les Français, d'une façon générale, ça ne lui donne pas, à lui, une personnalité politique extrêmement forte. Je pense que c'est beaucoup plus pour ces groupes de gauche, en fait, qui sont autour de lui, à qui il donne un peu de caution, une caution parce qu'ils l'ont reproché d'avoir des velléités pour aller à droite. Donc, ça veut dire, rassurez-vous, je vous donne ce qu'il faut sur le plan sociétal pour que vous restiez tranquille. Mais je pense que la véritable personnalité politique qui s'est trouvée, c'est celle d'être le chef de guerre, celui qui dit non. Enfin, c'était épouvantable, son intervention. Il dit, mais il faut rester debout, il faut se battre. Il
oui, je comprends que ça pensait de ça.
Mais vous,
c'est quand même bizarre, ces analogies qu'il a faites.
Ça veut dire quoi concrètement? Ah, mais ça veut dire qu'il faut rester debout et puis il faut se battre, il ne faut pas dire non. Il dit, mais quoi? Ça veut dire quoi? Que vous traversez la frontière ou non? Ah, mais il faut se battre. Enfin, jamais il a répondu à la question de savoir s'il était prêt à envoyer des troupes à Odessa. Il l'a dit avec un verre de whisky à la main en disant, je vais envoyer des mecs à Odessa. Mais je veux dire, ça, c'est la rhétorique, c'est la façon de Macron de... comment ça s'appelle? C'est la provocation macronienne, mais il, dans son truc, en fait, si on écoute bien ce qu'il a dit, il a noyé les deux, mais il n'a jamais rien dit de concret sur ce qu'il y avait derrière le fait de résister, etc. Donc, il cherche une posture, en fait. Voilà. À mon avis, c'est ça. Et il l'a trouvé. Donc il faut le critiquer là-dessus. Il faut dire, revenons à la réalité. Il faut casser d'abord la possibilité d'aller attaquer l'Ukraine. Puis même s'il allait à Odessa, et s'il empêchait les Russes, à Dieu ne plaise, d'atteindre Odessa, en quoi ça empêcherait les Russes de récupérer tout le reste de la partie qui les intéresse? Donc ça ne changera rien à la guerre. Donc il faut dire, la guerre, ce n'est plus le problème.
Merci beaucoup, voilà. Cher François Martin. On va passer au grand débat avec l'ensemble des intervenants. Vous êtes déjà 4000, dont 2500 rien que sur YouTube. Merci à vous de votre confiance. Et on va donc passer à ce grand débat. Mais avant ça, les petites annonces.
Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Abonnez-vous à la lettre de Géopolitique Profonde du mois de mars. Elle est spéciale Bitcoin. Voilà, notre ami Philippe Erlin, économiste, a écrit un long article sur ces Bitcoins. Allez-y, abonnez-vous. Vous allez en bas en description, il y a les liens. Vous cliquez dessus et n'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté Géopolitique Profonde. Vous allez sur le petit lien rejoindre, vous cliquez dessus aussi. Ou alors commentez en super chat. Cher Serge, j'aime bien le dire.
Hein.
Bah, j'adore le dire.
J'ai remarqué.
Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, de l'intervention de M. Macron d'hier soir?
Alors, je voudrais d'abord revenir sur celle de M. Martin pour vous féliciter, pour vous dire que c'est quand même assez rare, que, parce que bon, j'ai un tempérament peut-être un peu trop oppositionnel, mais on doit partager ça aussi, que je sois d'accord avec 95, entre 95 et 97% de ce qui est dit.
Alléluia.
Alors, il y a
quand même... pas ne pas être d'accord, là.
Oui, oui, non, mais bon, je suis d'accord sur l'essentiel. Ouais. Macron, c'est un crâne... Alors, sur la forme, d'abord, c'est un crâneur. Hein. Il roule des mécaniques, on voit bien comment il se comporte. Et là, l'aspect, effectivement, je vais envoyer des mecs à Odessa et ci et ça, ça rentre dans cette logique du petit gars qui essaie de monter sur ses ergots pour impressionner parce qu'il n'a pas de charisme personnel particulier et qu'il essaie de le trouver dans l'emphase verbale. Bon. Voilà. Donc, bon, sur la forme, on est d'accord. Sur le fond, je suis aussi absolument d'accord, c'est un dérivatif. Bon, de là, je souscris tout à fait à l'analyse sur les gilets jaunes, sur le Covid, à chaque fois qu'il est dans un cul-de-sac politique, eh bien, il essaie de trouver un nouvel espace avec des boucs émissaires et il use et il abuse de sa capacité à soutenue par les médias, parce que tout seul, il n'y arriverait pas. Il faut voir que tout l'appareil médiatique des oligarques français, parce que vous n'avez pas parlé des oligarques français, mais nous, on a nos oligarques, bon, et qui, eux, sont plus proches finalement des oligarques ukrainiens que des oligarques russes.
Tout à fait, parce qu'ils pillent l'État.
Bon, et donc, exactement, et donc on est dans une situation où il arrive à vendre son bobard, à culpabiliser les soignants qui refusent le vaccin, à tous ceux qui refusent le vaccin, à imposer ce régime démentiel bon, qu'on est en train d'oublier, mais peut-être trop vite, de passe, où les gens qui refusaient cette insanité, finalement, devenaient des parias des citoyens de second ordre et seconde zone. Bon, tout ça, il est allé très loin. Bon, ça a marché, mais ça a marché non pas sur ses qualités propres, ça a marché parce qu'il avait l'appareil médiatique derrière lui. Absolument. Et les quelques oligarques qui le soutenaient. Alors, la question qui va se poser, c'est... Bon, là, on est à nouveau dans une logique de dérivatif. Exactement. Je suis d'accord avec votre analyse sur les paysans, sur la révolte paysanne, mais ça va beaucoup plus loin. Et là, je vais commencer à aller un peu plus loin, finalement, que votre analyse. C'est-à-dire que je crois qu'il est dans une seringue, pour une raison, aujourd'hui, il le sait parfaitement, beaucoup mieux que quiconque, pour des raisons financières. Bon, l'activité économique est extrêmement ralentie, les rentrées fiscales sont en berne, et donc on se dirige, ils sont obligés de l'avouer, même ses copains de la Banque de France sont obligés de le dire, la croissance au mieux sera de 0,1 ou 0,2% en 2024, ça va se traduire par un trou budgétaire massif, et donc ils sont déjà en train de dire on va faire 10 milliards, on va faire 20 milliards d'économies. C'est pas vraiment, enfin, c'est plutôt des effets d'annonce parce qu'ils n'ont pas les moyens politiques et puis aussi parce que ça va accentuer l'effet récessif et qu'ils le savent. Et donc ça va ajouter finalement au recul du PIB, ça va encore diminuer les recettes fiscales. Donc il est dans une nasse financière. Il y a un risque pour lui majeur, c'est que au moment du vote du prochain budget, de la prochaine loi de finances, il n'est pas de majorité. Et que le 49-3 qui lui a permis à, je sais pas, 20 ou 30 entreprises, c'était extravagant, on n'a jamais vu ça, d'obtenir le vote du budget, là, au bout d'un moment, il y a des LR ou des groupes fermiers.
Mais pourquoi les LR changeraient de leur braquet ?
Mais parce qu'il sera de plus en plus impopulaire, Macron, au fur et à mesure que la situation économique va empirer.
Et justement, est-ce que l'élection européenne est peut-être
ça sera un test, ça sera un test. Et justement, Macron essaie de reprendre immédiatement très vite, de tirer un bénéfice politique de la peur qui va susciter chez l'électorat, troisième âge, enfin tous ceux qui peuvent avoir peur de la situation internationale, en se disant bon, on va soutenir le chef parce qu'il nous protège, et puis donc essayer de limiter la casse, et ça c'est un élément de son discours, pourquoi c'est pas que les paysans qui l'ont conduit à agir, les sondages sur les européennes aussi.
Bien sûr.
Et donc il cherche à reprendre la main immédiatement, et puis surtout, il essaie en limitant la casse aux européennes et en créant ce subterfuge, de parvenir à distraire, à faire monter la tension pour que le risque majeur qui lui pendait, à savoir le vote d'une motion de censure sur la loi de finances, ne finisse par se produire. C'est pas passé si loin que ça la fois précédente, et ça peut se produire si les LR ont un intérêt, parce que c'est pas des grands foudres de guerre. À partir du moment, on est bien d'accord, tu les connais aussi bien que moi, même mieux, mais si à un moment ou un autre, ils ont un intérêt politique à mettre un coup d'arrêt d'arrêt au macronisme, ils le feront. Et ça, tout ça, Macron en est conscient. Donc, il a créé, j'aimerais bien revenir ensuite, sur les risques diplomatiques, parce que ce qui a marché, ce qui a marché plus ou moins avec les gilets jaunes, ou avec le Covid, ne marchera pas forcément.
Un jour, ça ne marchera plus, mais parce que les gens n'en laissent
le coup. Et peut-être que maintenant, on est justement...
Et en plus, il emmerde le Front National, ce qui n'est pas l'un des moindres.
Donc, on reparlera de est-ce que ça va marcher ou pas, cette opération de magouille et de manipulation.
Cher Jérémy, est-ce que c'est juste de la com'?
Alors, j'aimerais revenir un petit peu avant. D'abord, quand vous disiez que le principal ennemi des États-Unis, c'était l'Europe.
Ouais.
Moi, je dirais plutôt des vassals que des ennemis.
À un moment donné, le vassal devient une proie.
Oui, mais...
Je dis ça dans le sens où ça veut dire c'est la partie du monde qu'ils ne peuvent absolument pas perdre.
On est d'accord.
C'est dans ce sens-là que je dis
mais,
ça.
Mais,
je provoque un peu.
Oui, je parlais plus de vassal parce qu'il y a eu un consentement des Européens à être vassalisés. Après la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont accepté globalement, à l'exception du général de Gaulle qui, lui, voulait une France qui incarnait un autre Occident, notamment les Britanniques, les Allemands, etc., ont accepté que maintenant la capitale du monde occidental était aux États-Unis et que finalement être sous la coupe des Américains n'était pas un problème. Et donc les Américains le savent très bien et les élites qui dirigent l'Europe depuis 40 ans maintenant sont sur cette ligne-là. Par rapport à la Chine, en effet, les États-Unis voient la Chine comme la première menace économique. Mais d'un point de vue stratégique, je pense que la Russie représente un ennemi beaucoup plus important parce que la Russie, si l'Europe s'allie avec la Russie, c'est terminé pour les États-Unis.
C'est-à-dire
parce que l'Europe sera totalement
indépendante. C'est donc pas la Russie, c'est la Russie à cause de l'Europe.
Oui.
C'est l'Europe le problème.
Oui, c'est l'Europe le problème, mais parce que à ce moment-là, l'Europe sera totalement indépendante, notamment du point de vue des matières premières. La Chine, au final, c'est un ennemi économique temporaire, mais que pour l'instant, les États-Unis arrivent à maintenir, notamment avec le cercle qui entoure la mer de Chine. Et puis, de toute façon, les États-Unis ont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud. Donc, finalement, ils sont assez bien positionnés. Après, par rapport à Emmanuel Macron... moi, je pense que ça ne lui fait pas du tout sa stature. C'est-à-dire, je pense que ça le décrédibilise encore plus à l'international.
Pourquoi ça ?
Mais parce que dans toutes les chancelleries occidentales, les gens ont rigolé après les propos d'Emmanuel Macron.
Il s'en fout.
Il y a même un général américain qui a plaisanté il y a deux jours sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine en disant « Mais de toute façon, l'armée française équivaut à une armée africaine aujourd'hui. » Il a dit ça, un général américain. Donc en fait, Emmanuel
Macron... C'est
flatteur. Pas vraiment. donc Emmanuel Macron est de toute façon tricard partout et les déclarations comme ça qui sont complètement déconnectées et hors sol nous décrivent crédibilise et accélère encore plus la chute de la France à l'international.
À l'international, mais pas en France.
Mais pas en France, c'est ce que j'allais dire. Le seul bénéfice qu'il a à faire ce genre de déclaration, c'est justement en politique intérieure, parce qu'il voulait effacer...
Mais c'est l'objectif, j'imagine.
Bien sûr, il voulait effacer la séquence agriculteur par peur d'un retour gilet jaune, puissance 1000 agricole. Et par contre, en ce qui concerne les Républicains et le risque électoral d'Emmanuel Macron, je pense que Macron a parfaitement conscience que la France de demain, c'est LFI-RN. Et que tout ce qui est au centre, y compris les Républicains, sont morts. D'ailleurs, on voit que chez les jeunes, là, pour les Européennes, la plante verte qu'il a désignée comme tête de liste chez Renaissance...
Oh, c'est méchant, ça.
C'est une plante verte. Je l'ai vu hier en débat, c'est une plante. Elle est créditée de 0% chez les 18-24 ans.
0% comme ça.
Zéro.
C'est-à-dire aucun jeune ne vote en marche aux Européennes.
0% pour la plante verte de Renaissance. Donc,
c'est fou, ça.
Mais verte,
c'est quoi,
vous êtes sympa pour elle, parce qu'une plante verte, ça a de la sève, là, déjà.
Oui, c'est vrai. Disons que la plante verte a déjà plus d'utilité. Elle a déjà plus d'utilité dans l'écosystème.
C'est un sondage qui est sorti récemment.
Oui, un sondage qui est sorti les 18-24 ans, 0% pour la candidate Renaissance. Donc Emmanuel Macron et les Républicains savent très bien que demain, l'affrontement, ce sera Rassemblement National et les filles, incarné certainement par quelqu'un d'autre que Mélenchon. Et les Républicains le savent aussi, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils feront en sorte de destituer Macron, parce qu'ils savent qu'à partir du moment où cette espèce de centrisme mondialiste qui dirige la France depuis 40 ans tombe, eh bien c'est terminé pour eux. Voilà. C'est terminé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce bloc la tombe, ça sera le RN ou LFI, et ça sera une France qui sera divisée, fracturée, deux sociétés différentes qui ne vivent plus du tout ensemble et ça peut très très mal finir, il faut se le dire.
Je rajouterai à ce que vous dites que Macron n'a aucune appétence pour la politique internationale, j'ai encore plus dans ce que vous dites, il s'en fout complètement. Chaque fois qu'il a fait une déclaration à l'étranger, c'est dans le but de provoquer quelque chose en politique intérieure. Il a fait ça quand il a été en Afrique. Il a fait ça quand il a été, quand il a dit qu'il n'y avait pas de culture française, quand il est allé en Algérie. Dès qu'il est à l'étranger, la seule chose qu'il se dit, c'est qu'est-ce que je dois dire pour faire réagir une partie de mon électorat.
Mais c'est voilà. Comme la phrase sur les Kwassa Kwassa à Mayotte, c'est exactement la même chose. Et justement, par rapport
Totalement de la politique internationale.
Quand Macron est arrivé au pouvoir en 2017, la France était le deuxième réseau diplomatique au monde. Hein, donc juste derrière les États-Unis, on avait quand même une stature internationale. Aujourd'hui, la France est classée cinquième derrière la Turquie. C'est-à-dire qu'un pays dirigé par Erdogan nous est passé devant à l'international. Donc, on trouve que c'est extrêmement révélateur.
Donc, CQFD.
De la politique de Macron depuis 2017.
Qu'est-ce que t'en penses, cher Nicolas ?
Ben, j'étais un peu déçu par Serge.
Je
l'espérais plus pugnace. Je pensais qu'il serait l'opposant préférentiel.
On n'a pas parlé des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. En particulier, je ne pense pas, mais ça en reviendra, que la situation de la...
de dire quelque chose.
Bah non, mais enfin, non. Bon, tu m'as...
Bah tu l'as attaqué, là, donc...
Bah oui, non, c'est juste
même
pour
Mike
introduire...
Même Mike reconnaît que j'ai été agressé.
pas du tout, j'introduis mon propos, puisque Mike... Bah, non, mais alors, donc Mike va penser aussi que je l'agresse, parce que je dis, Mike aime bien les débats un peu, avec un peu de soufre, avec des désaccords.
Ça donc, dépend, là, cette semaine, j'aime pas trop les désaccords, j'aime bien quand c'est un peu calme, là, on est bien, là, entre amis.
Eh bien, tu vas en avoir, des désaccords, parce que...
Enfin.
Je ne suis pas, je suis pas totalement d'accord avec François Martin.
Ouais.
Dans sa parabole bien connue du sage et de l'imbécile, je pense qu'il y a aussi le fou.
Il faut
y rajouter le mad. Moi, je pense que l'histoire, c'est très rassurant. Et puis, c'est très plaisant et c'est très agréable d'entendre François Martin expliquer finalement le cours de l'histoire
par... De façon brillante,
Absolument. Par la raison, par le fait que tous les acteurs dans le monde auraient la raison comme mode d'action préférentiel. En réalité, le cours de l'histoire n'a jamais été gouverné par la raison, beaucoup plus par les passions. Je crois que, et c'est là, ça c'est général, maintenant on va rentrer dans le détail justement de l'Ukraine, qui peut-être est le doigt entre la lune et la
terre. Aujourd'hui.
Mais ce doigt, à mon avis, il pèse lourd, parce qu'il concerne finalement le fait de ne pas perdre la face. Ouais. Et ça, c'est dans l'histoire. D'ailleurs, si on était uniquement rationnel, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de guerre. En tout cas, on peut se demander si le suicide qui est 14 aurait lieu. Il y a un enchaînement.
Il faut rentrer la rationalité économique et tout le fric qu'on pique à travers ça. Je pense aux mafias locales et je pense aux mafias internationales. Et je pense à la classe politique américaine.
A posteriori,
il y a une logique.
A posteriori, on peut...
Pas la logique,
enfin, c'est pas eux qui ont déclenché la guerre en 14, c'est pas les États-Unis.
C'est la logique des alliances qui a fait qu'en 14...
C'est la logique des alliances. Donc finalement, de ce que, et ça sera ma chronique tout à l'heure, de ce que j'appelle moi l'emballement mimétique avec René Girard. C'est-à-dire qu'il y a un emballement.
Mais la fais pas maintenant, ta chronique. Hein.
Non, je la fais pas maintenant. Ah. Mais par contre, pour expliquer que pour moi, je ne suis pas aussi rassuré, j'aimerais d'ailleurs croire...
Tu penses qu'on peut aller en guerre,
François Martin? Je pense que, en réalité...
Je pense que l'atome calme tout le monde, pour répondre.
Il semblerait que non.
Une guerre sans atome.
Il semblerait que non, mais ça, on pourra revenir dessus. Mais juste ce que je pense être, ma source d'inquiétude, c'est que, il y a quelque chose d'existentiel dans ce qui va se passer en Ukraine pour les Européens, et je dirais pas pour les Européens, pour les mondialistes, pour ceux dont Macron est finalement le représentant. Ils ne peuvent pas, Poutine a dit, c'est vital. Il a dit, moi, l'Ukraine, ou en tout cas une partie de l'Ukraine, c'est tout à fait vital, je ne peux pas me permettre de perdre. Macron dit c'est existentiel. On peut ne pas le croire, on peut considérer que c'est une posture. Je ne suis pas sûr que ce soit une posture pour les gens de Davos. Je pense que la défaite en Ukraine, le passage jusqu'à Odessa, je pense que c'est pas par hasard qu'il y a eu en effet des indiscrétions dans le monde qui sont parues, comme quoi Macron très froidement aurait dit il y a une semaine ou deux, je vais être obligé dans quelques temps, en tout cas cette année, d'envoyer des mecs à Odessa. Mais ça veut dire, semble-t-il, qu'il note un peu en filigrane, ce qui est en fait sa ligne rouge. C'est-à-dire qu'il ne veut pas voir Poutine aller jusqu'à la Transnistrie et rejoindre... Et alors, Eh ben, comment peut-il l'empêcher? On nous dit de plus en plus, parce que autant c'était absolument incompréhensible ce qu'on a entendu hier de la part de Macron, moi je n'ai rien compris à ce qu'il racontait. Par contre, il y a des interprètes, comme toujours, qui viennent ensuite expliquer la parole présidentielle. J'ai été surpris de les lire depuis hier soir, dire eh ben finalement, Macron met dans la balance l'arme nucléaire. On pourra y revenir. Ce qui veut dire qu'il met vraiment une ligne rouge, il peut considérer que l'escalade. Parce que d'ailleurs, on se dit, il dit ne pas vouloir l'escalade et en même temps vouloir la défaite de la Russie. Donc, si, faut-il considérer qu'à ce moment-là.
Il n'a pas dit qu'il voulait la défaite, il a dit qu'il ne voulait pas leur victoire.
Ah, il a dit, le premier lundi, il a parlé de défaite.
Oui, il a dit défaite.
Il a commencé par défaite et puis il a corrigé un peu le tir. Mais au début, il a dit défaite. Donc, on peut se demander où est la ligne rouge et si finalement l'enjeu n'est pas nucléaire, ce qui veut dire que finalement, on est dans quelque chose qui est devenu totalement irrationnel. Totalement irrationnel pour les uns et pour les autres. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est cet emballement. Quand on est à la limite, quand on va taquiner d'un peu trop près le tigre, dont je ne suis pas si sûr qu'il y ait actuellement une cage entre les deux.
L'ours russe.
Alors, l'ours plus encore que le tigre, moi, je dirais que je ne suis pas aussi confiant que tu peux l'être.
Qu'est-ce que vous en pensez, François Martin, et après Serge ?
Je ne sais pas. Moi je ne suis pas rationnel. Je dis que la seule analyse que je peux faire, si je veux faire des projections de l'avenir, c'est en me disant qu'est-ce que les gens peuvent penser à partir des événements. Donc j'essaye de construire quelque chose. Donc ça, c'est forcément rationnel. Mais en disant ça, je n'exclus pas que, quelque part, la folie puisse exister. Je crois pas trop à ça, mais je dirais pas si on
se déduire.
Si on devait me dire, c'est pas possible.
Mais il y a l'aspect symbolique, je pense, pour les Occidentaux. L'OTAN se rend bien compte, les États-Unis et toute l'oligarchie occidentale se rend bien compte que la défaite de l'Ukraine signifie la fin, en fait, de l'hégémonie occidentale. C'est-à-dire la fin du glacis occidental.
Mais c'est pour ça qu'on voit ils sont à nos portes. Toute la politique de com, ça sert à fermer cette porte-là, justement. Il faut absolument pas qu'on se pose cette question. Il faut qu'on se dise, jamais nous n'avons eu autant besoin de l'OTAN.
Oui,
c'est ça qu'on se dit.
Je pense qu'aux yeux du reste,
parce qu'on a perdu.
Monde,
mais je pense que personne, aucun militaire américain, aucun dirigeant de haut rang ne peut penser autre chose que l'Ukraine a perdu.
Mais bien sûr.
Sinon, la seule alternative, c'est l'alternative nucléaire.
Oui. Mais alors déjà, la Russie veut aller jusqu'à Odessa parce qu'elle veut le contrôle.
On peut parler un peu de la sortie de crise aussi.
Oui.
J'attends dire un mot. Il y a quatre possibilités de sortie de crise. Quatre. La première, c'est la paix. J'ai expliqué, pour la raison qu'on a dit, qu'il n'y aura pas de paix. Parce que les Américains ont besoin d'un néo-rideau de fer. Et le jour où on fait un traité de paix, le lendemain, Macron est à Moscou et Scholz aussi en disant « redonne-moi du gaz, redonne-moi tes marchés ». Donc il ne peut pas y avoir de paix.
Peut-être un scénario Corée du Sud, Corée du Nord.
Voilà. Alors, le deuxième qui ne peut pas y avoir non plus, c'est la guerre nucléaire. Enfin, si on élimine le fait qu'il y a des fous, et pour moi, j'ai plutôt confiance dans la froideur, je dirais, d'un type comme Poutine ou des dirigeants américains que la bêtise de Macron qui regarde autre chose. Bon. Donc il n'y aura pas de guerre nucléaire non plus. Il reste deux scénarios à la coréenne, c'est-à-dire la non-belligérance. La douce et la dure. La douce, c'est on se met d'accord, on ne se tire pas dessus, on ne règle pas le problème, mais surtout, ça permet de dire aux Européens, vous ne retournez jamais là-bas. Voilà, ça c'est la douce. Je pense que c'est celle que préférait Trump, parce qu'il dirait, j'ai autre chose à m'occuper, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ça. Et il y a la dure, c'est celle qui consiste à faire peur, et à mon avis, c'est celle qu'on est en train de choisir. On va négocier une non-belligérance, mais en même temps, on va dire aux Européens, attention, 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 parce que ça permet de les mettre sous emprise et de les garder pendant 10 ans. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On remonte toutes les prérogatives des pays au niveau de la Commission européenne, parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler une femme plutôt que 27 pays. Et le jour où on a la politique économique, la politique financière, la politique de défense, la politique sanitaire, tout est remonté, c'est fini.
Ça nécessite que Poutine valide.
Comment?
Cette quatrième. Ça nécessite que Poutine accepte cette solution à la coréenne, et moi j'en doute.
Serge.
Oui, alors, sur l'hypothèse nucléaire, je voulais revenir là-dessus. Bon, j'y crois pas. Macron, point de vue international, c'est un fantoche. Maintenant, tout le monde s'en est rendu compte. Bon, il est absolument pas crédible. C'est vrai que ça n'intéresse pas, mais en plus, il n'a aucune crédibilité. S'il dit, attention, je vais intervenir, ou en tout cas, il laisse penser, plus ou moins directement, qu'il pourrait le faire, bon, on en vient très vite à l'usage possible ou non possible de l'arme nucléaire, et cet usage possible de l'arme nucléaire, ça sera uniquement l'arme nucléaire française. C'est pas les Américains qui vont se lancer dans une guerre stratégique avec les Russes pour Odessa. C'est pas les Anglais non plus. Bon, donc, vous imaginez une seule seconde qu'on soit, nous, en France, avec le petit Macron dans son palais de l'Élysée, à menacer les Russes d'un conflit nucléaire qui ne concernerait que la Russie et la France, avec le risque de vitrifier tout le territoire national pour Odessa.
Ce jour-là, il sera destitué.
Pour Odessa. Mais à ce
ils l'ont tous sous-estimé non. comme ça. Hein. Non, ils ont fait. Hollande a fait la même erreur que toi. Ils ont tous fait vis-à-vis de Macron la même erreur.
Oui, mais c'est-à-dire
toujours
est
de
vraiment,
sous-estimer.
Voilà, c'est vraiment, pas un plein génie.
Non.
C'est quelqu'un qui a réussi à se faire élire deux fois à l'élection présidentielle
Macron, sur un quinquennat. On n'avait jamais vu ça. Et il a des gens qui le financent et qui l'instrumentalisent.
C'est qui?
Ces gens, c'est les grands oligarques français. En numéro un, Bernard Arnault et deux ou trois autres derrière. Ces gens-là ne peuvent pas, surtout Arnaud. Bon, d'ailleurs, il lui a remis là le Grand Croix de la Légion d'honneur, la Grand Croix.
Oui, c'est à l'Élysée. Voilà.
À l'Élysée, avec
en présence de Nicolas Sarkozy.
Oui,
il y a 3-4 jours, je crois. Voilà.
De Beyoncé, je ne sais pas qui. Et
GZ.
Et de tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Bref, ces gens-là, cette situation-là, qui serait hautement préjudiciable au commerce, en particulier au commerce de luxe, qui les fait vivre, ils n'en veulent pas. Donc, ils le débrancheront ou plus raisonnablement, ils le calmeront. Bon, et parce qu'on ne va pas se lancer, nous, avec nos petits bras, dans un conflit nucléaire avec la Russie, c'est clair.
Pas nucléaire. Bon,
ils sont déjà en train de le débrancher progressivement.
Non, parce que bon, tant qu'il maintient l'ordre en France, qu'il empêche que les gilets jaunes ne reviennent, qu'on ne défile pas sur les Champs-Élysées, que le business tourne, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais aussi faire une petite insiste sur la situation financière, parce que tout est lié. Ils ont calmé le début de la révolte paysanne en lâchant quelques milliards.
Oui.
Bon, et ça va renforcer justement la crise budgétaire dans laquelle on est. Ça a fait haute partout la situation en France. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il essaie de retrouver de l'espace. Alors, la vraie question, ça va être effectivement, je pense que le fait que Poutine se satisfasse du Donbass, bon, en gros, et de garder la Crimée, d'avoir le Donbass, ça serait logique.
C'est ce qui l'intéresse.
Voilà, c'est ce qui l'intéresse. Oui. Odessa, pas Odessa, ça va être... Bon, ça peut, est-ce qu'on va mourir pour Danzig? Est-ce qu'on va mourir pour Odessa? On risque de retrouver les termes du débat des années 30. On mourra pas pour Odessa, comme on n'est pas mort pour Danzig, on est mort ensuite quand Hitler nous a attaqué.
De toute façon, d'accord.
Même s'il attaque Odessa, il n'est pas sûr que ça se résolve par une.
Il a dit lui-même il y a deux jours qu'il était prêt à discuter à tout moment,
mais
qu'il fallait qu'on discute sur la base des réalités, c'est-à-dire qu'on lui donne ce qu'il avait pris, et pas sur la base d'idées qu'on a reçues sous psychotrope.
Ce qui va se produire, à mon avis, c'est que
si aujourd'hui on lui dit tu gardes ce que tu as, mais on donne l'architecture.
Oui, si on lui dit, mais si on lui dit,
on lui dira jamais.
Mais on lui dira justement, mais
je pense que oui. Je pense que la Russie a un intérêt à couper totalement l'accès à la mer de l'Ukraine, puisque le problème de la Russie, ça a toujours été l'accès aux mers chaudes. La Russie veut avoir l'accès aux mers chaudes. Couper totalement l'Ukraine de l'accès à la mer et de récupérer Odessa ferait que la Russie aurait...
La Russie a déjà ce qu'il lui faut pour accéder aux mers chaudes, et bon, elle a Crimée.
Nicolas n'est pas d'accord.
Si ça reste dans cet état-là... Non, mais je voudrais revenir et terminer mon propos.
Finis après Nicolas.
Je crois justement, effectivement, je crois aux deux scénarios possibles.
S'exprimer.
Bah oui, sinon voilà. Bon, ça va être une frustration.
Mais bon, pas humain non plus. Hein.
J'ai pas d'armes nucléaires à disposition, mais j'ai quand même des tas.
Si vous me laissez pas parler, je fais tout péter.
Voilà. Donc, le problème, c'est qu'ils voudront pas donner cette satisfaction officiellement à Poutine, que ça va finalement, ça va être une espèce de statu quo pourri, un peu comme on a eu. Finalement, en Allemagne, entre 45 et 91, où il y aura une situation de guerre tiède ou de guerre froide avec à nouveau la Russie. Et bon, ça ira bien aux Américains parce que ça nous mettra effectivement
dans leurs bras.
Ça ira bien aux Européens qui pourront agiter cette espèce d'épouvantail. Et Poutine, il n'en aura pas grand-chose à faire. Il aura obtenu l'essentiel.
Nicolas, tu n'es pas d'accord avec ce scénario?
Non, mais il est impossible ce scénario.
Pourquoi il est impossible?
Et parce qu'on compare des choses, c'est comme l'anachronisme de Danzig avec l'arme nucléaire, mais là c'est pareil en 45. C'est-à-dire que la paix en 45 s'est assise sur l'échec, sur l'effondrement et l'échec de l'axe de fer, et en particulier donc de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie, et en particulier pour l'Europe, de l'Allemagne.
Je suis surpris que tu aies ce discours. Hein.
Comment ?
Je suis surpris que tu aies ce discours.
Mais c'est l'équilibre de 45, tel qu'il s'est établi avec une bipolarité, elle s'est faite sur le dos, alors elle s'est faite en partie, mais d'ailleurs je partage une partie non négligeable des idées de François Martin sur le fait que la principale cible des Américains, ce soit l'Europe de l'Ouest. Ça, je partage totalement ce point de vue.
Moi, je ils ont toujours poursuivi deux proies.
On
parle pas en même temps.
Je vais rajouter. S'ils peuvent, ils ont toujours poursuivi deux proies. Éric Branca explique dans son livre « L'ami américain » que tout le monde devrait avoir lu, que pendant la guerre, en même temps qu'ils font la guerre contre les Allemands avec les Russes, ils négocient avec les Allemands pour retourner les Allemands pour attaquer les Russes. Donc ils choisissent deux stratégies contradictoires pour choisir la meilleure à la fin. Après, ils financent l'OAS et le FLN, les deux en même temps. Ils financent le Shah et Khomeini en même temps. Et là, ils font la même chose. Ils se servent de l'Europe pour faire la guerre aux Russes, et ils se servent de la guerre aux Russes pour bouffer l'Europe. Alors, ils ont deux proies en parallèle. Il y en a une qui se défend et l'autre qui ne se défend pas. Ben, moi, je suis
pour moi, il faudra un vainqueur et un vaincu.
Je vais manger,
Jérémy,
celui qui ne se défend
s'il
pas,
plaît,
c'est tout.
J'aimerais entendre Jérémy.
Je pense qu'on oublie peut-être les deux choses les plus importantes. Un, il va avoir les élections européennes et les élections américaines, qui risquent de totalement rebattre les cartes du jeu. Premièrement, les élections européennes, on voit que dans certains pays, il commence à avoir une légère protestation de l'argent qui est envoyé en Ukraine, de la politique qui est menée par l'Union européenne. Donc déjà, on peut avoir un Parlement européen avec une commission, donc à l'issue, qui pourrait changer totalement. Et ensuite, on a l'élection américaine, qui, à mon avis, Trump gagnera, parce que la momie Biden, bon, je veux dire, à moins d'un coup d'État, partira. Donc dans ces cas-là, Donald Trump, lui aussi, lâchera totalement le morceau de l'Ukraine. Et par rapport aux États-Unis, je pense, je l'avais dit avec Nicolas, ce qui est le plus important, c'est que ce sont les néoconservateurs qui veulent ça, qui veulent la mainmise sur l'Europe. Ce n'est pas toute l'Amérique, ce n'est pas tous les États-Unis et ce n'est pas tous les politiciens américains qui ont la même vision, justement, du contrôle de l'Europe.
Elle dure que depuis 45, simplement.
Depuis 45, mais les néoconservateurs sont
même à l'époque où ça a été les républicains qui ont été au pouvoir.
Mais des néoconservateurs, il y en a dans les deux camps, hein. Des néoconservateurs, il y en a chez les républicains et chez les démocrates, c'est vrai. Ce sont eux qui dirigent depuis 45. Si demain on a quelqu'un comme Trump qui, pour la première fois depuis 45, n'est pas un néoconservateur, ça changera de politique et l'Europe aura les mains libres. En tout cas,
pour revenir au scénario du statu quo un peu pourri où chacun reste sur ses.
Qui est une vue de l'esprit.
Non, c'est pas une vue de l'esprit, à mon avis. C'est tout à fait possible, mais il y a quelque chose, là, je vais aller légèrement dans ton sens, qui risque de rendre les choses plus difficiles. Et de sortir de la situation qu'on a connue entre 1945 et 1991, c'est qu'on n'est pas dans la même situation économique. Et que la puissance américaine, économiquement, même si elle n'est pas loin d'être aujourd'hui totalement abattue, est beaucoup moins importante qu'à cette époque, parce qu'il y avait une véritable domination planétaire mondiale beaucoup plus grande. Il y a des puissances autres qui ont émergé. Les États-Unis sont extrêmement endettés. Nous, on est extrêmement endettés. Et moi, ce que je crains le plus dans la situation que François Martin décrit et qui me convainc, à nouveau, globalement, c'est que cette espèce d'équilibre de statu quo bâtard, où chacun resterait à digérer ses conquêtes précédentes pour les Russes et puis la situation où on est aujourd'hui pour nous, pour les Occidentaux,
c'est pas mal, hein, ça va.
Non, mais le problème, c'est que c'est une situation qui est très coûteuse économiquement, qui empêche justement.
Pour qui?
Mais pour tout le monde, même pour nous, par exemple, si on n'a pas accès aux matières premières russes, avec Nord Stream, etc., c'est un grave problème. C'est un grave problème pour les Allemands en premier chef,
pour les Américains.
Mais les Américains, ils ont quand même besoin d'un climat économique général, parce que, comme disait l'autre, les États-Unis, c'est pas un pays, c'est un business. D'accord ? Mmh. Bon, ça, il faut le comprendre de manière très profonde. C'est pas un pays, c'est un business. C'est un endroit où les gens... Bon, il y a un nationalisme américain, mais enfin, c'est quelque chose où le pragmatisme et toute la politique tentent à améliorer, à développer l'économie. Et donc... c'est pas bon non plus tout à fait pour eux. Et donc, ça va avoir, ça aura des effets pervers qui risquent une espèce de fragmentation et de tirer tout le monde vers le bas par le retour, en fait, de difficultés économiques, la montée des taux d'intérêt.
Il y a une contradiction dans ce que vous dites. Vous dites qu'il n'y aura pas la guerre. Et dans le même temps, vous dites les États-Unis sont endettés, l'Europe est endettée. Mais le meilleur moyen d'effacer une dette, c'est de faire la guerre.
Hein. Il peut donc, y avoir. Heureusement, il y a d'autres moyens.
L'hyperinflation aussi.
Il y a l'inflation, il y a la déclaration de la banqueroute, comme ça a été fait le jubilé biblique où tous les 50 ans on efface les dettes, c'est aussi, il y a d'autres moyens que la guerre nucléaire pour effacer la dette.
Et par rapport au business des États-Unis, vous oubliez aussi un point important, c'est l'aspect messianique des Américains. Il y a une destinée pour les États-Unis à vouloir contrôler...
Ça, je pense que c'est une caricature. Parce que les Américains, dans toute leur politique depuis deux siècles, ont vécu des moments où ils étaient pas messianiques, mais en tout cas avec des tendances impérialistes, et puis des tendances isolationnistes,
Il n'y en a pas eu beaucoup.
Il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu avec la doctrine de Monroe. Il y en a eu... Et ils sont actuellement plutôt, finalement avec Trump et même un peu avec Obama et Biden, dans une perspective plus isolationniste,
J'aimerais entendre François Martin
là-dessus. C'est Bush qui a déclenché la guerre, pas Obama.
J'ai voyagé dans ma vie dans plus de 100 pays pendant 40 ans. J'ai fait que ça. J'ai vu des pays avec des économies entre, je dirais, de liberté et des économies de pénurie. Là où on gagne le plus d'argent, de très, 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 très loin, c'est les économies de pénurie. Et dans les économies de pénurie, celles où on gagne le plus, c'est les économies de guerre. Alors, j'ai été au Congo, pendant la guerre entre Lissouba et Sassou. J'ai été dans la guerre entre Savimbi et Dos Santos en Angola. J'ai été au Nigeria... Les 10 dernières années de ma vie, j'ai fait 44 voyages au Nigeria. C'est le pays que je connais de très, très loin, le mieux de partout, où j'ai vu de grandes tensions sociales, etc. C'est là où on fait le plus de fric. Il faut bien voir...
Alors là, je ne suis pas d'accord.
Alors, je vais terminer mon propos. Là où nous disons « c'est affreux, les gens, etc., n'arrivent pas à vivre, il y a la sécurité, etc. » Pour certaines personnes, c'est le paradis. Ah. Ah. C'est le paradis. Je vous donne l'exemple de comment ça se passait en Angola. Le gouvernement n'avait plus d'argent parce qu'il voulait acheter des armes. Donc les Libanais venaient voir, les gros Libanais, venaient voir l'État en se disant « je vous donne 5 millions de dollars, d'accord ? Ou 10 millions de dollars. » Tac. Bon, il y a 1 million, c'est pour toi et tes copains, le ministre, le président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce, le directeur des douanes. Bon, les 4 millions, on obtient pour 4 millions de dollars de licence d'importation. Et après, avec ça, on achète le riz, l'huile, le lait, etc. On a une concession portuaire qui vous est réservée. Donc on est seul à importer tous les produits de première nécessité parce qu'on a donné suffisamment gros à l'État. On met ça dans ces entrepôts qui sont gardés par une armée privée, etc. Et on vend ça à 10 fois, 100 fois, 1000 fois le prix. 1000 fois le prix. Donc le mec qui a importé pour 4 millions de dollars, il va ressortir avec 400 millions ou 4 milliards de dollars. Et puis, j'ai vu, moi, on m'a dit qu'il y avait des gens qui crevaient tellement la dalle qu'ils rentraient dans les magasins avec des grenades dégoupillées en disant « tu me donnes un sac de riz ou sinon je fais tout péter, moi, avec, pour avoir 1 kilo ou 2 kilos de riz » et que les types, ils partaient en courant pendant qu'on leur tirait dessus, etc. Et ça, je l'ai vu, moi, de la fenêtre de l'hôtel, les types se faire tirer dessus en train de foutre le camp avec... Ce que je veux dire, c'est que ça, on ne le comprend pas quand on n'a pas vu ça sur place. Alors, en théorie, c'est vrai qu'on se dit, bon, l'économie de liberté, le pays gagne plus, le pays se développe, mais là encore, C'est pas la rationalité.
Non, mais là, je voudrais.
En deux minutes.
François Martin, il a commencé un raisonnement pour aboutir finalement au raisonnement qui me convainc beaucoup plus, qui est un peu inverse, en tout cas qui est différent. C'est pas que tout le monde gagne. Moi mon objectif, mon analyse, c'était de parler de la situation économique globale qui a quand même plutôt besoin d'une certaine sécurité dans les échanges internationaux. Alors, effectivement, dans les économies de guerre, de prédation, certains peuvent gagner plus.
Voilà.
Et ça, c'est un vrai danger. Alors là, je
et les
rejoins
Américains
totalement.
Sont dedans. Le
je
système militaire est dedans. Bon. Regardez, avec
mais
tout ce qu'on
tous.
Donne et ce qu'on va continuer à donner, on va se rempoter à 100% avec des armes américaines. Ils vont faire des centaines de millions de dollars de profit. Et les démocrates et les républicains qui auront voté pour la poursuite de la guerre vont se faire rincer. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi, je pense, dans notre façon de voir les choses.
Qu'est-ce que tu en penses de cette discussion? Est-ce que voilà, on va provoquer une économie de guerre?
Ah, je pense que l'économie de guerre
elle est déjà là
et elle arrange beaucoup de monde.
Et je
pense que les États-Unis et certains dirigeants de l'Union européenne ont tout intérêt à basculer dans cette économie de guerre et dans ce fonctionnement. D'abord pour maîtriser en effet les populations, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on voit que les Européens commencent à contester de plus en plus la politique migratoire, la politique sociale, économique, de libre-échange de l'Union européenne. Donc là, le fait d'être en économie de guerre, ça met une cloche en fait sur les vrais problèmes de la société, et comme ça, on passe à autre chose.
Exactement.
Et en plus de ça, par rapport à la dette, et j'insiste parce que vraiment, aujourd'hui, l'Union européenne est dans un état mais qui est catastrophique d'un point de vue de la dette et les États-Unis.
Oui, mais la dette, elle est partout.
Elle est partout, oui, sauf que les États-Unis. Alors, le dollar a encore de très, très, très beaux jours devant lui, mais il y a quand même une contestation de plus en plus de l'hégémonie du dollar, du système financier de post-45. Et les États-Unis et l'Europe en ont bien conscience. Et je pense qu'ils sont en train de préparer un effacement, ou en tout cas une refonte totale de l'économie, parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le système qu'ils ont mis en place de la planche habillé depuis des années, ne fonctionne plus et ne pourra plus fonctionner, d'autant plus si on a des puissances comme les BRICS, etc., qui se mettent à les concurrencer au niveau du marché international, et là, c'est terminé.
Donc Nicolas, ce sera l'effacement des dettes par la guerre, c'est ça? Toi, tu crois à ce scénario?
Bah déjà, sur l'économie de guerre, pour moi, on est à nouveau dans une considération sur la comète. Je ne vois pas du tout les pays d'Europe de l'Ouest dans une économie de guerre. Une économie de guerre, on voit ce que c'est. Poutine est encore capable de le faire.
J'ai pas parlé d'économie de guerre, j'ai parlé d'économie de pénurie.
Bon, oui, l'un ou l'autre. De toute façon, on a vu comment il a été capable de transférer 1,5 million, 2 millions de personnes vers l'industrie de l'armement. On en est absolument infoutu, comme on est infoutu, là, en effet, de faire la guerre autrement que par de la très haute technologie. Et moi, je ne vois pas ça. Je vois continuer les déficits se creuser jusqu'à peut-être un effondrement financier, mais qui ne serait pas, à mon avis, nécessairement la conséquence de la guerre, le choc exogène qui pourrait en effet créer cet écroulement financier. Je ne sais pas s'il viendra et je ne sais pas d'où il viendrait. À la planche à billets, ça peut encore fonctionner un certain temps.
Mais tu ne penses pas que la 20 ans, quand même. Tu ne penses pas que ça les arrangerait de déclencher une guerre
oui,
pour effacer la
mais
dette.
Le problème que nous avons, c'est que ça, c'était vrai, encore une fois, avant l'atome, avant Oppenheimer, pour parler du film qui a raflé tous les océans.
On a parlé
c'est
des BRICS.
C'est beaucoup plus difficile. Il n'y a plus eu de guerre, je le rappelle, majeure. D'ailleurs, il n'y a plus de déclaration de guerre. Vous avez remarqué ça. On ne déclare plus la guerre, on n'est que sur des opérations spéciales. Donc c'est pratique, puisque
toutes
donc,
les guerres sont
en
hybrides.
Fait, on est en guerre permanente.
Sauf Israël
hybride,
et le Hamas.
Bien évidemment.
Ouais, là, ils ont déclaré la guerre. Non, mais ils ont déclaré la guerre pour des raisons juridiques, parce que justement, quand
mais
on déclare
état,
la guerre...
c'est pas un État, le Hamas.
La logique de la guerre. Je considérais que le Hamas, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais le Hamas, comme ils se sont. Bon, il y a eu le 7 octobre et les exactions qui sont produites, il fallait que les Israéliens désignent un ennemi officiel au regard du droit international pour pouvoir justement lui taper dessus en limitant les risques juridiques de l'organisation
internationale. On reste sur la Russie et on va parler des BRICS, parce que les BRICS, justement, on n'en a pas beaucoup parlé, pas du tout même. Toi, tu es assez circonspect sur les BRICS, tu ne crois pas que c'est un grand concurrent d'Occident?
Non, moi je pense que les tensions entre la Chine et la Russie, par exemple, sont plus que latentes, continuent d'être extrêmement fortes, qu'on en avait discuté une fois dans une autre émission.
Oui.
L'enjeu, c'est la Sibérie, le contrôle des richesses de la Sibérie. L'enjeu, c'est le contrôle de l'eau douce du lac Baïkal, sur lequel les Chinois lorgnent, et là, ça fait pas du tout plaisir à Poutine. Et moi, je pense qu'effectivement, Poutine, il préférerait de très loin, avoir de bonnes relations avec l'Europe occidentale et la France, que de prendre le risque de se mettre à la même table que des Chinois, parce qu'ils ne vont pas forcément le manger avec des baguettes, mais ça peut être avec des instruments.
C'est bien dit, ça.
Les BRICS, voilà. Les BRICS sont un ennemi économique.
Goût de la formule.
Mais certainement pas,
pas forcément. Parce que
les Américains, non, non. Qui sont divisés. Ce sont des pays qui ne sont
pas. Déjà, une majorité de BRICS sont des gros problèmes économiques aujourd'hui, hein, que ça soit l'Iran, l'Iran, la Turquie. Bon, la Turquie a une inflation phénoménale. Bon, donc ils sont dans des situations complexes eux aussi. Et je ne crois pas que ça intéresse et que ça inquiète autant que ça les Américains.
François Martin n'est pas d'accord avec vos avis là.
J'ai un bémol par rapport à ça, parce que je pense que quelque part, comme on le disait au début, la Russie a quand même été, d'une certaine façon, le proxy de la Chine dans cette guerre. Donc la Chine n'a pas intérêt à faire tomber, à ce que la Russie tombe, ni qu'elle s'affaiblisse, parce que c'est elle qui serait l'objectif suivant. Donc, elle a tout à fait intérêt à soutenir la Russie. Donc, je pense qu'il y a quand même une alliance objective du Sud global pour se débarrasser de la tutelle du Nord, qui est quand même une logique qui perdure malgré les désaccords possibles ou les tensions possibles. Moi, je ne pense pas qu'il y a vraiment... Il y a une tension immémoriale entre la Russie et la Chine, on sait très bien. Mais aujourd'hui, les deux dirigeants font tout ce qu'ils peuvent pour les diminuer. Il y a une tension immémoriale entre l'Inde et la Chine, mais elles sont dans le même camp, même si l'Inde se rapproche
des
États-Unis.
C'est comme l'alliance.
Je crois qu'il y a quand même globalement une tendance. Je pense que les pays du Sud, qui ont à la fois les matières premières, le peu d'endettement et de la main-d'œuvre pas chère, je veux dire, ils ont leurs 30 ou leurs 50 glorieuses devant eux, c'est clair. Et nous, on n'a pas ça devant nous du tout, parce qu'on est endettés. Voilà. Donc, je pense que malgré tout, même si on ne sait pas si le système des BRICS va se mettre en œuvre à court terme, on sait que les Russes travaillent dessus depuis 15 ans, puisqu'ils ont un type qui s'appelle Sergueï Glazyev qui avait proposé déjà ça au forum d'Astana il y a de cela plus d'une quinzaine d'années. Donc ce qu'on appelle les 5 R, la roupie, le rand, etc., le renminbi, etc. Donc je pense que l'histoire ne peut pas s'arrêter et qu'il y aura d'une façon ou d'une autre quelque part un système du Sud. Parce que c'est la nature des choses, avec une copie du système de Bretton Woods à eux, où ils voudront financer. Un petit exemple très simple, mon club HEC, on a créé un truc qui s'appelle les assises HEC de la géopolitique. Et on en a fait un sur l'énergie, là récemment, il y a 2 ans, on en a fait un sur la Chine. Et ben, un sur la Russie et un sur l'Afrique, et avant c'était sur la Chine. Et dans celui sur l'Afrique, j'ai appris... avec des grands dirigeants africains qui étaient là, comme l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou et d'autres personnes, etc., qu'aujourd'hui, l'Afrique demande à ce qu'on lui finance des barrages, des centrales au charbon, des choses comme ça, parce qu'elle a impérativement besoin d'électricité abondante et bon marché et souveraine, et on ne veut pas lui financer parce que ce n'est pas bon pour la planète. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller voir les Chinois pour se faire financer ça. Et la Tunisie a fait pareil. Quand elle a voulu renégocier ses dettes, on lui a dit non, tu ne renégocies pas tes dettes parce qu'il faut telle et telle réforme, il faut arrêter de subventionner le pain, le truc, etc. Donc, je veux dire, le fait qu'il y aura obligatoirement, il y a un marché pour un système parallèle. Voilà,
c'est alors, ça. J'aimerais entendre Serge et après Nicolas, parce que Nicolas, on l'entend pas aujourd'hui.
Oui, alors, sur l'alliance entre Russes et Américains, à mon avis, elle est aussi solide que naguère.
Entre Russes et Chinois.
Entre Russes et Chinois, pardon. L'alliance entre Russes et Américains, elle est assez fragile en ce moment. Mais en tout cas, entre Russes et Chinois, elle est aussi fragile que celle, naguère, qu'il y avait entre le Parti communiste russe et le Parti communiste chinois, entre Mao et Brejnev. Bon, voilà. Très rapidement, ça a tourné au vinaigre. C'est circonstanciel. Ils ont effectivement actuellement un intérêt commun contre les Américains, mais ça peut changer très très rapidement parce qu'ils ont des intérêts divergents eux-mêmes dans leur immense frontière qui sont très très, très puissants et ça joue. Deuxièmement, sur le monde enchanté des BRICS et du Sud global qui pourrait supplanter l'Occident, j'y crois pas du tout. Il y a des États qui sont extrêmement endettés aussi parmi eux, qui ont des gros problèmes économiques. Le Brésil, c'est un énorme bordel, ça fonctionne pas, ils ont des gros problèmes économiques. Et la Chine elle-même, la dette chinoise est monstrueuse, la dette publique chinoise a été multipliée par 45 ces 20 dernières années. Ça, le secteur immobilier en Chine... Le secteur immobilier, j'allais y venir, en Chine, c'est une menace énorme pour... Et c'est pour ça aussi qu'en Chine, il y a un durcissement de la situation interne avec Xi Jinping, qui est lui-même confronté à ces difficultés. Moi, ce que je crois, alors là, je vais faire une échappée, faire quelque chose de plus large, c'est qu'on peut être dans des situations globales, historiques, où on est tous confrontés à des problèmes. C'est-à-dire que de fragmentation planétaire, c'est plutôt ça que je verrais. Hein, une situation de fragmentation planétaire où personne n'arrive. C'est un peu comme la situation de la fin de l'Empire romain. Ça n'a pas donné l'émergence d'une grande puissance qui immédiatement lui a succédé. Pas du tout. Il y a eu à Byzance, à Constantinople, l'Empire qui a perduré, mais sur un cadre beaucoup plus étroit. Parfois, ils ont essayé de s'étendre, mais très vite, sous Justinien.
Mille ans.
Oui, mais c'était dans un cadre beaucoup plus étroit. Sous Justinien ou sous Basile II, ils ont essayé de revenir un peu en Occident. Ça n'a pas marché.
Il y a eu le Saint-Empire romain-germanique après.
Mais le Saint-Empire romain germanique, ça a été très vite une construction qui a battu de l'aile. Bon, dès que Frédéric II, là, on va pas là,
oui, français, oui, oui,
bon,
oui.
Dès que Frédéric II a échoué face à la papauté, eh bien, ça a battu de l'aile. Donc, on peut se retrouver dans une situation qui va durer longtemps, où le monde se fragmente et où il n'y ait pas de puissance dominante.
Cher Nicolas, je t'entends pas, et c'est très dommageable qu'on puisse pas t'entendre.
Impossible.
Non, mais moi, ils sont en train de continuer à parler.
On est d'accord.
Il y a les deux camps là. Il y a deux camps. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? T'as les BRICS, toi, tu penses que justement c'est l'émergence d'une nouvelle puissance ?
Non, moi, j'ai jamais mordu à l'hameçon du fait qu'à la suite du conflit Est-Ouest, il y aurait un conflit Nord-Sud. Ça, je l'imagine pas. Je suis assez d'accord avec le fait que.
Il est déjà là, le conflit Nord-Sud.
Est-ce qu'il est possible de s'exprimer juste un moment ?
Les invitations sur Radio Courtoisie, c'est fini.
Terminé.
Et d'ailleurs, je.
Pardon.
Bah oui,
pardon.
Non, mais c'est quand même difficile.
Pardon, cher Nicolas.
Même si. Alors j'en étais où ? Mais c'est digne de.
Mais
c'est
tu n'étais pas d'accord avec
Olivier
le Nord-Sud.
Piacentini. C'est la technique d'Olivier
qui m'aurait pas plu.
Ah oui.
Non, au contraire.
Il n'est pas là. En plus, Piacentini pour se défendre.
Donc vas-y.
C'est la technique Materazzi.
Le Nord-Sud.
Oui, alors moi, je ne crois pas du tout dans le Nord-Sud. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, je suis globalement d'accord, on va dire, avec Serge Federbusch sur ce point. Je pense qu'on assiste aujourd'hui à une forme de décomposition civilisationnelle. Je crois beaucoup plus dans cette idée. Je ne confonds pas, par contre, peut-être contrairement à Serge, Europe et Occident. Je pense que l'Occident est une décomposition déjà de la civilisation, de la chrétienté et de l'Europe. L'exemple de Rome et du sac de Rome est en effet tout à fait valable. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'il y a eu le sac de Rome. Il y a des moments qui peuvent être d'acmé, de destruction, mais ce n'est pas pour autant qu'en effet une nouvelle civilisation a vu le jour après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Donc nous assistons, à mon avis, à une recomposition bien malin qui pourrait savoir dire exactement comment, à quoi elle aboutira, même si en effet il y a des constantes, et là je rejoins ce que dit François Martin, dont l'énergie, dont les minerais, dont ceux qui vont maîtriser, semble-t-il, l'énergie et ce qui permet de se développer dans l'avenir. Et là on voit bien actuellement, au regard des cartes, où se trouvent ces richesses, évidemment. Et donc on est dans un conflit déjà qui est post-civilisationnel, en tout cas de la civilisation qu'on connaissait, et avec des comportements d'avis extrêmement prédateurs des uns et des autres, et en particulier évidemment de l'Empire américain.
Cher Jérémy ?
Oui, alors par rapport aux BRICS, déjà je pense que c'est uniquement une menace monétaire, principalement des BRICS. C'est-à-dire que les BRICS veulent remettre en cause l'hégémonie du dollar. Mais après, sur les autres points stratégiques, je ne vois pas comment les BRICS pourraient en effet menacer le bloc occidental, on va dire.
On laisse finir et vous répondez.
Les pays des BRICS sont incroyablement divisés sur tout un tas de sujets, que ce soit des conflits territoriaux, des conflits commerciaux, etc. Donc finalement, à part sur l'aspect purement monétaire, où là, en effet, il y a une espèce de convergence pour dégager l'hégémonie du dollar, ça c'est sûr, mais sinon, sur les autres thèmes, je ne vois pas trop comment les BRICS arriveraient à concurrencer, on va dire, le bloc occidental. Pour ce qui est de l'aspect civilisationnel, je suis assez d'accord. Je ne parlerai pas d'affrontement nord-sud, je suis d'accord avec Nicolas, mais plutôt d'affrontements entre blocs civilisationnels différents qui aujourd'hui se contestent les uns les autres, finalement. Et la différence que nous avons, nous, d'ailleurs en Occident, et le problème que nous avons, nous, c'est que nous avons une civilisation étrangère sur notre propre sol. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est les moins bien placés pour cet affrontement du 21e siècle, parce qu'on va devoir non seulement affronter des dangers et des menaces extérieures venant de pays qui nous contestent, mais on a également une contestation de notre propre civilisation sur notre sol par le biais de l'immigration, etc. Donc finalement, on est très très mal positionné, je pense.
Réponse de François Martin.
Je pense pas du tout que les BRICS ne sont actifs que sur le plan monétaire. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez l'alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran. Il y a une puissance diplomatique et politique qui se développe aujourd'hui, qui est spécifiquement des BRICS.
Comment ? L'Inde conteste, l'Inde est du côté d'Israël, elle a condamné les
attaques. Oui, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même, de la part de ces pays, quelque chose qui s'oppose à un règlement américain et à une politique américaine qui consiste à poursuivre, soutenir Israël quoi qu'il arrive et écraser les Gazaouis jusqu'au dernier. On voit que derrière ces BRICS, il n'y a pas seulement une puissance monétaire, il y a une puissance politique. Hein,
Diplomatique.
Peut-être que l'Inde n'en est pas là, parce que l'Inde a choisi un chemin, je dirais, anti-islamique pour construire son unité.
Non, mais j'ai l'impression que l'Inde a plus peur de la Chine que de l'Occident. J'ai l'impression que l'Inde voit plus comme une menace militaire aujourd'hui la Chine, notamment avec les contestations territoriales qu'il y a, puisque les frontières ne sont pas reconnues de part et d'autre. Et d'ailleurs, l'Inde est dans le Quad. Donc, c'est-à-dire l'alliance militaire avec les États-Unis. Donc, j'ai l'impression que d'un point de vue stratégique, si on se passe d'un point de vue militaire, l'Inde préfère aller avec l'Occident, parce que pour l'Inde, la principale menace, si on se passe d'un point de vue régional, c'est l'hégémonie de la Chine. Et l'Inde ne veut pas de l'hégémonie
chinoise.
Je ne suis
pas sûr de ça, moi.
Mais il n'y a pas un petit mépris occidental de ta part vis-à-vis des BRICS ?
Pas
et de votre part aussi, à vous deux. Hein.
Alors, je vais. Il me vient une réflexion, en fait. Léonard de Vinci disait un truc. Il disait tout ce qui est imaginable finira par se produire. Bon. Donc, le conflit nucléaire finira par se produire.
C'est la théorie de Jean-Pierre Dupuis.
Bon, voilà. Ça finira
un jour. Oui, oui.
Bon. C'est normal. Il a imaginé des avions. Un jour, on les a produits. Il a tout imaginé.
Non, ça arrivera,
voilà.
C'est sûr.
Bon, ça arrivera. Et bien, justement, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, pour dire à quel point, à mon avis, ce côté Occident contre pays du Sud ou Orient, peu importe, ne reflète pas la réalité, j'ai toujours été convaincu que là où viendrait, pour avoir voyagé moins que vous, mais quand même pas mal, là où viendrait un jour le conflit nucléaire, c'est des pays que je connais assez bien, ça sera entre l'Inde et le Pakistan. D'accord ? Parce que là, un jour ou l'autre, ils se mettront dessus. La notion de 10 ou 50 ou 20, 30 millions de morts qui nous effraient, c'est une unité de compte, ni plus ni moins, sur ces échelles humaines-là.
Ah bah oui.
Quand on va à Calcutta et qu'on voit d'un côté la grande mosquée de Calcutta peuplée de fanatiques, de l'autre le grand temple de Kali peuplé de fanatiques, et au milieu l'ashram de Mère Teresa et de celles-ci qui lui ont succédé, on se dit qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour que ça tourne mal. Et les Indiens, ce qu'ils craignent avant tout, c'est pour ça qu'ils sont derrière Israël, effectivement, c'est l'islam. Là, on n'a pas parlé d'un facteur essentiel aujourd'hui, quand même, dans la structuration des rivalités entre puissances et planétaires, c'est le fait religieux.
Le monde islamique.
Bon, le monde islamique, mais c'est très important, qui peut créer des phénomènes qui vont complètement bouleverser cette espèce de schéma où il y aurait l'Occident contre les autres. Et donc, je crois qu'il faut vraiment raisonner de manière extrêmement pragmatique et prudente, quand c'est extrêmement complexe, mais que l'hypothèse d'un monde, non pas seulement multipolaire, mais totalement fragmenté, avec des des conflits qui nous échappent aujourd'hui, qui vont se dégager un jour sans qu'on comprenne rien. Si un jour, un conflit nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, nous, on sera comme des abrutis. On n'aura rien vu venir. On n'aura rien vu venir, on n'aura rien compris.
Vous êtes d'accord avec
Stalin ? On ne peut pas l'exclure. Je ne veux pas l'exclure. Moi, je pense, j'ai tendance à penser que le Sud va prendre son envol. Je ne suis pas certain que les Indiens, enfin, s'ils sont des intelligents, qu'ils choisissent le camp occidental, ce n'est pas du tout leur intérêt. Par contre, leur intérêt, ça peut être sans doute d'équilibrer pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et de se garder quelque part un soutien américain si jamais ça tourne mal. Mais moi, je serais eux. Je ne vais pas me fâcher avec les Chinois alors que je peux. J'ai l'un des plus grands marchés du monde juste à côté de moi. Donc, je vais moins loin que vous. Je constate effectivement, mais à mon avis, c'est un rééquilibrage intelligent et sage. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une volonté d'aller carrément se marier avec l'Ouest, alors qu'ils sont au milieu de...
Non, je ne dirais pas mariage.
Merci à vous pour cet excellent débat d'à peu près une heure. On va écouter la chronique de notre ami Nicolas Stocker, mais avant ça, les petites annonces.
Votre masque.
Tous les trois mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le pass carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde.
Merci à vous d'être si nombreux un vendredi soir, rien que sur YouTube, 2700 personnes, vous rajoutez même 2500 sur nos comptes X, donc vous êtes plus de 5000 à regarder cette émission, merci à vous vraiment. Continuez à vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Ce mois-ci, celle de mars, c'est spécial Bitcoin, vous avez des articles du coup ultra détaillé de notre ami économiste Philippe Erlin. Alors on va passer à l'édito de Nicolas Stocker. Donc du coup, tu vas parler de quoi aujourd'hui ?
L'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique et finalement...
Toi aussi t'es bien ambigu ce soir.
Hein. Je dirais que de toute façon, celui qui prononce le terme d'ambiguïté stratégique est en effet une personnalité ambiguë. C'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron est ambigu. Merci pour
un peu d'eau.
Cette petite eau de Volvic.
Je crois que tu vas parler longtemps.
Le cardinal de Retz, l'homme de la fronde, l'ennemi de Mazarin, ne disait-il pas, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et il faudra bien un jour sortir de l'ambiguïté. Oui. Alors, l'ambiguïté stratégique, je me suis demandé longtemps, parce que, étant donné qu'il n'y avait personne pour interpréter le verbe presque de la pitié macronienne, hein, on ne comprend rien à ce qu'il raconte, mais ensuite vous avez des interprètes de la pensée, des interprètes autorisés, hein, légitimes de la pensée macronienne, nous expliquent, et j'ai fini par comprendre, mais il m'a bien fallu 15 jours, 3 semaines, pour comprendre qu'en effet, dans le verbe présidentiel jupitérien, lorsqu'il parlait d'ambiguïté stratégique, il parlait de dissuasion nucléaire. Mazette. Mazette, mazette. Alors, il y a un interprète officiel de la pensée d'Emmanuel Macron. On le retrouve souvent chez BFM, dont on a appris d'ailleurs là qu'ils allaient changer de propriétaire. Mais ça sera peut-être
On en parlera tout à l'heure.
C'est l'ineffable Michel Goya. Ah, Michel Goya, avec un physique de nain de jardin, en tout cas sa tête. Historien militaire, attention, ancien colonel des troupes de marine, c'est quand même quelqu'un de sérieux. Donc, je me suis penché sur l'interprétation que Michel Goya faisait de l'ambiguïté stratégique dans le verbe jupitérien, jupi petit air. Alors, dit-il, hérité des théories du général chinois Sun Tzu. exposant dans l'art de la guerre au VIe siècle avant notre ère, l'ambiguïté stratégique, qui est un principe de base de toute confrontation avec une puissance étrangère, paraît-il. Elle consiste à entretenir le flou sur la nature de la riposte. Concrètement, cela veut dire qu'on n'exclut rien, qu'on ne s'interdit pas d'utiliser certaines cartes. Alors, cette ambiguïté stratégique est étroitement liée, nous dit Goya, au principe de dissuasion nucléaire. Il s'agit de laisser un flou sur le moment où l'on peut utiliser l'arme nucléaire. C'est rassurant de lire cela, car si on dessine une ligne précise, ça laisse un champ libre à l'adversaire. Eh bien oui, poursuit Goya. Alors pour l'historien, la vraie question concerne l'usage en premier de l'arme nucléaire. Mais l'usage en premier de l'arme nucléaire, on sort là complètement du principe de dissuasion. Le principe de dissuasion, c'est le principe de défense, surtout pas d'attaque. On pourrait même dire que dans la dissuasion nucléaire, on offre sa population, éventuellement en holocauste. En tout cas, on ne cherche pas à se défendre. C'est pour ça d'ailleurs que les boucliers antimissiles sont générateurs de fortes tensions par rapport à la dissuasion. Puisque on dit finalement à celui qui est en face, tu peux me détruire, mais de toute façon, si tu me détruis, moi, en retour, je te détruirai. C'est la fameuse mutuelle assistant destruction mutuelle assurée, MAD, qui veut dire ça et qui veut dire fou aussi. Et qui d'ailleurs, par rapport à nos discussions de tout à l'heure sur le plan rationnel, est totalement irrationnel et qui démontre que la dissuasion est totalement irrationnelle. Celui qui a vendu la mèche, d'ailleurs, Goya, d'ailleurs, s'en est beaucoup gendarmé, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, dans ses mémoires, et cela semble-t-il fragiliser la dissuasion nucléaire française, dont on tient notre bombinette, notre dissuasion, on est sûr qu'elle marche à 100%. Eh bien, Giscard a vendu la mèche, ça n'aurait pas fonctionné, puisque Giscard a dit, mais pensez bien, même si on m'avait attaqué nucléairement, je n'aurais pas réagi. Parce que je ne voulais pas porter sur les épaules le poids de la destruction de l'humanité tout entière. Donc, nous voilà bien avancés, avec donc notre foutriquet national qui a en tête de menacer, semble-t-il, nucléairement, avec éventuellement une première frappe. D'ailleurs, c'est dans sa doctrine nucléaire qui a évolué, contrairement à ce qu'on nous dit avec Macron, c'était à l'école de guerre, j'ai lu ce discours à l'époque, il l'a tenu en 2018-2019, c'est-à-dire très tôt dans son premier mandat. Il a dit qu'il pourrait y avoir, dans la dissuasion nucléaire, une première frappe de dernier avertissement. Ce qui, à mon avis, est une hérésie sur le plan, justement, de l'emballement mimétique. Je vais t'envoyer une première bombe nucléaire sur Moscou pour bien t'avertir de ma volonté, s'il le faut, de t'anéantir. Mais c'est véridique, il faut, et c'est dire combien, là, ça peut laisser songeur, à la fois sur ceux qui l'ont élu, nous en particulier, mais aussi sur ceux qui lui ont permis, et cette élite qui lui a permis, aujourd'hui, d'être au pouvoir depuis toutes ces années. Eh bien, c'est pas étonnant d'ailleurs qu'on en arrive aujourd'hui à la situation actuelle. Alors, moi, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que j'ai une vision de la dissuasion nucléaire qui est celle, finalement, qui n'est pas du tout celle de Raymond Aron. Alors, je comprends que en tant que Sciences Po Léna, Emmanuel Macron ait fait une fiche sur Raymond Aron qui expliquait la dissuasion, ça marche très bien, c'est grâce à la dissuasion qu'on n'a pas eu la guerre. C'est pas si simple. Déjà parce qu'on a frôlé plus d'une fois l'holocauste nucléaire. Il y a une anecdote savoureuse que l'on raconte actuellement sur un sous-marin nucléaire piégé dans les eaux des Caraïbes soviétiques, dont on ne savait pas, les Américains l'apprendront bien après, qu'elle était porteuse d'ogives nucléaires. Un porte-avions américain l'avait repéré non loin des côtes de Cuba. Des destroyers étaient en place et à ce moment-là, la procédure était d'envoyer à bâbord, je crois, du sous-marin repéré quelques grenades explosives. Sauf que dans le sous-marin, eh bien, ils étaient totalement coupés des communications avec Moscou. Alors vous aviez le capitaine, alors dans ce genre de sous-marin, évidemment c'est l'Union soviétique, vous aviez le capitaine, le militaire, mais vous aviez aussi un commissaire politique, toujours. Oui. Donc le commissaire politique est là. Le capitaine. Les deux se concertent, ils disent « Nous sommes attaqués, il nous faut envoyer nos torpilles nucléaires », n'ayant aucun retour de Moscou. Les deux se concertent et disent « Allez, on envoie les torpilles nucléaires ». Fort heureusement, il y avait ce jour-là, dans ce sous-marin nucléaire, un autre capitaine qui avait le même rang que le commandant du navire. Mais il ne peut pas y avoir de commandant. Néanmoins, c'était lui qui dirigeait l'ensemble de la flotte des sous-marins. Et c'est lui, et c'est grâce à lui, que nous sommes pratiquement tous autour de cette table. Nous avons eu cette chance d'exister, nous ne l'aurions pas eu s'il n'y avait pas eu ce capitaine soviétique qui avait arrêté les choses. Le lendemain, Khrushchev et Kennedy faisaient la paix. Mais on peut imaginer ce qu'il en serait advenu si un missile nucléaire avait frappé un sous-marin, un porte-avions américain. Comme les Américains étaient persuadés que ces sous-marins nucléaires soviétiques n'avaient pas de torpilles, ils auraient immédiatement imaginé que le missile nucléaire venait de Cuba. Et là, Kennedy avait été très clair. Il avait dit, au premier missile nucléaire qui part de Cuba, j'attaquerai massivement et je détruirai massivement l'Union soviétique. Il aurait été impossible de distinguer entre une frappe d'un sous-marin nucléaire, dont ils ne pensaient pas qu'ils avaient la d'ogive nucléaire, et un missile qui aurait été déjà sur place à Cuba. C'est dire combien, parfois, nous avons frôlé la catastrophe. Et l'originalité de la pensée de René Girard, lorsqu'il étudie Clausewitz dans son livre « Achever Clausewitz », c'est de dire, finalement, la dissuasion ne fonctionne bien, eh bien, que tout le monde, que les principaux acteurs pensent qu'elle ne va pas fonctionner, qu'elle va très très mal fonctionner. Et que finalement, une génération entière a cru, pendant la guerre froide, que tout ça, en effet, se terminerait fort mal. Et que c'est pour cela que cela ne s'est pas mal terminé, parce que, en effet, quand on craint que les choses puissent mal finir, on fait attention. On se tient à distance. On ne va pas chatouiller, en effet, le tigre ou l'ours. C'est-à-dire tout à fait l'inverse de ce que font les acteurs en Europe aujourd'hui. Et il n'est que très symptomatique, je trouve, que la menace aujourd'hui d'une escalade puisse venir de la France, parce que nous sommes de tous les pays détenteurs de l'arme nucléaire, ceux qui, du fait de notre stratégie, nucléaire, pensons qu'elle nous met à l'abri d'à peu près tout.
C'est ça.
Or, c'est probablement pas vrai. Et c'est ça donc qui m'inquiète le plus, et c'est ce que je voulais partager, c'est-à-dire que nous avons perdu cette sagesse. Parler du sage et de l'imbécile, il nous faudrait retrouver cette sagesse ancestrale qui est qu'il ne faut pas taquiner le tigre, mais bien au contraire s'imaginer que, comme le disait Serge Federbusch, le pire est plus que probable, et que la seule façon d'éloigner le plus possible le danger, et dans le temps et dans l'espace, d'une guerre nucléaire en Europe, est justement de s'abstenir de tout ce qui se fait depuis, je dirais maintenant, le 22 février. Certains disent que c'est le 17 que la guerre a été déclenchée avec le Donbass. Mais en tout cas, nous sommes rentrés dans une logique, dans un entonnoir. Je crois que c'est Serge qui parlait d'entonnoir tout à l'heure. Extrêmement inquiétant et qui nécessiterait, à mon avis, d'une véritable prise de conscience des risques que nous encourons. Et à la limite, j'aurais envie de dire, si demain cela n'avait pas lieu, eh bien, ce serait un petit peu comme, je terminerai sur cette fameuse parabole qui est le signe de Jonas, ce fameux prophète Jonas, qui est un prophète de l'Ancien Testament. Qui ne voulait pas, l'Éternel lui avait dit « Tu vas prophétiser la destruction de Ninive ». Ce peuple, cette ville est totalement corrompue, une sorte de Sodome ou de Gomorre. Le prophète, qui n'a absolument pas envie de prophétiser, tente de s'échapper, tente de fuir. Il prend un bateau, s'endort au fond de la cale. Une tempête se lève, l'ensemble des membres de l'équipage voient ce type qui dort au fond de la cale, ils tirent au sort celui qu'ils vont jeter par-dessus bord, ça tombe sur le malheureux Jonas, qui est avalé à ce moment-là par la baleine 3 jours dans le ventre de la baleine, il est recraché sur les rives de Ninive, ville païenne. Et là, il prophétise en disant à l'ensemble des habitants de Ninive, vous allez payer le feu du ciel, du fait de votre comportement déviant, du fait de votre immoralité, vous avez déplu à l'Éternel qui va vous anéantir. Et évidemment, il s'échappe tout de suite de cette ville, monte en haut d'une petite colline pour voir le spectacle effarant de la destruction de Ninive. Mais bien évidemment, parce qu'il a tellement bien prophétisé, il a tellement bien prêché ce risque pour les habitants de Ninive, que eux automatiquement se convertissent, ils jeûnent, ils le croient, ils croient en réalité qu'ils vont être détruits. Et c'est cette croyance qui va assurer cette conversion et qui va éviter leur destruction. Moi, j'aimerais qu'on soit tous convaincus aujourd'hui, en Europe, en Occident, que nous allons, probablement, si nous continuons dans cette logique, sur cette voie, vers un accident et un incident nucléaire majeur.
Merci beaucoup, cher Nicolas. C'était vraiment brillant.
Très belle démonstration.
Très belle. Un petit mot, Jacques-François.
Je crois que ce qui nous différencie entre les deux, c'est que tu as dit probable et moi je dis possible. Mais au niveau du risque, ça ne change pas les choses. Mais moi, j'essaye de croire, enfin, j'essaye d'analyser les choses. Et je pense, j'ai tendance à penser que si on a des individus rationnels, et encore une fois, ce n'est pas Macron, puisqu'il joue, il fait l'imbécile, gravement. Mais qu'en face, on a avec Poutine et avec des gens rationnels. Par contre, je pense que c'est exactement pour cette raison. En fait, et ça on l'a pas abordé, que Macron, malgré qu'il fasse la politique de l'Occident en essayant de terroriser les Européens, s'est fait taper sur les doigts. Parce que c'est pas du tout la même chose de dire « les Russes sont à nos portes, les Russes sont à nos portes » pour terroriser les Européens, que de dire « on va aller leur taper dessus ». Donc il a pris ce risque parce qu'il était piégé, comme on l'a dit, et qu'il a besoin de trouver quelque chose de vraiment discriminant pour sortir de la trappe où il était. Mais je pense que la raison pour laquelle tout le monde, les pays occidentaux critiqué, c'est pas parce que parce qu'il est dans la ligne de l'hystérisation occidentale. Donc, c'est pas ça qu'on lui reproche. Mais on lui reproche d'avoir été trop loin. Voilà. Je pense, et dans ce sens-là, je suis d'accord. Parce que de dire les Russes sont à nos portes, c'est hystérisant, mais c'est pas dangereux, je dirais, dans le sens où tu l'expliques. Quand on dit on va peut-être devoir y aller, là, on est dans un tout autre discours qui, lui, est beaucoup plus dangereux. Donc, il est passé, je dirais, de la menace de type 2 à la menace de type 7 ou 8. Et ça, c'est ce que les autres ont compris. Et je pense qu'ils ont voulu envoyer un signe à Poutine en disant « t'inquiète pas, il a dit des conneries,
Serge Federbuch,
ça ne se produira pas ».
Oui, là, je rejoins ce que dit François Martin aussi. Bon, Macron, pour des raisons de démagogie, parce qu'il est bravache, etc., pour tous ces petits calculs de politique intérieure, est dangereux, c'est clair. Bon. Mais là, je vais peut-être essayer d'insuffler un peu d'optimisme quand même, parce que sinon, nos auditeurs ils vont finir par vraiment s'ouvrir une bouteille de whisky, effectivement, pas pour trinquer avec Macron à l'envoi des petits gars à Odessa, mais pour essayer d'oublier leur misère.
Les mecs.
Bon, il y a quand même, on peut espérer qu'il y ait quand même quelque part des gens un peu rationnels, froids et lucides dans ce bastringue. Et même s'il a l'air, il a le verbe haut et très provocateur, paradoxalement, même si je ne crois pas en lui, bon, tout à fait, en tout cas pas beaucoup plus qu'aux autres, je pense que l'élection de Trump, ça pourrait peut-être être une situation, l'ouverture qui permettrait de dire, bon ben là, parce que Poutine, il a aussi envie que ça s'arrête, à mon avis. Parce que ça fragilise quand même, et là, j'étais pas tout à fait d'accord avec François, ça fragilise quand même la Russie, cette situation, à terme. Donc, si Trump disait, bon, maintenant, on arrête les conneries, on se met autour de la table, on voit comment revenir, non pas à ce qui était prévu en 2014, mais à une forme, bon... c'était l'autonomie hein, du Donbass avec le renvoi des référendums ultérieurs qui n'ont jamais eu lieu, mais une forme de co-développement avec la Russie. Enfin ça, on admet que le Donbass soit plus ou moins une république sœur de la Russie, et puis on en reste là, et ça suffit les conneries. Bon, peut-être que ça pourrait donner un débouché diplomatique. Peut-être que quelque part, des gens vont dire, on va retrouver le mot diplomatie et revenir à la raison dans ce truc qui devient insensé.
Alors, j'aimerais avoir l'avis de Jérémy, puis la conclusion de François.
Bah, alors déjà, je vous rejoins sur l'aspect diplomatique, mais qui ne pourrait être possible que si Trump revient.
Oui, bien sûr.
Parce que si on a le clan Biden qui reste à la Maison Blanche, c'est bon.
Je suis d'accord.
Par rapport au discours de Macron hier, c'est plutôt ce qu'a dit Nicolas qu'on aurait dû entendre hier de la part du président, c'est-à-dire quelque chose de rationnel, de posé, et qui explique justement quel est le rôle de la dissuasion nucléaire française, et pas les déclarations d'Emmanuel Macron qui ont plus effrayé finalement, enfin, rien que le début de l'interview avec son histoire de chaise assis debout, etc. On se dit, mais c'est pas possible, cet homme dirige le pays, quoi, ça fait peur en fait. On a besoin, et surtout quand on est une puissance nucléaire, d'avoir quelqu'un à la tête de l'État qui sache pertinemment et dans quelle direction il va et il se dirige justement sur la question de la dissuasion nucléaire. En fait, Emmanuel Macron révèle avec cette crise tout simplement qu'il n'a pas les épaules pour diriger un pays doté, qu'il n'a pas du tout les capacités pour diriger une puissance nucléaire. Et je pense que c'est...
Les gens se rendent compte, moi ce qui me frappe quand même, c'est que l'opinion est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de gens qui se disent ce mec est dingue, il n'est pas du tout à la hauteur. Mais et ça, ça peut quand même limiter son pouvoir de nuisance.
Y compris dans les chanceries
bien sûr.
Ou d'ailleurs l'Allemagne... Mais l'Allemagne est en train de freiner des quatre fers ce qui est en train de se passer parce qu'elle voit la dérive que prend la France et d'autres pays européens, notamment de l'Est. Et elle voit ça, évidemment, pour elle, c'est catastrophique. L'Allemagne est en récession, enfin, je veux dire, c'est fini. Donc à mon avis, on pourrait avoir, entre l'Allemagne et Trump, une solution peut-être diplomatique. C'est possible.
Conclusion de François Martin.
Dire que ce dont on rêve, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait un accord, ça s'est déjà produit. Puisqu'au cours du premier mois, je vous rappelle qu'il y a eu d'abord des négociations à la frontière biélorusse et que deux des négociateurs de la frontière de la mission ukrainienne ont été assassinés à leur retour à Kiev. Il ne faut pas oublier ça. Pour dire, bah écoutez, faites semblant de négocier, mais ne négociez pas. On n'est pas là pour... Bon, et derrière ça, il y a eu les négociations d'Istanbul, où il y a un accord sur la table qui était finalisé des deux côtés, du côté ukrainien et du côté russe. Mm-hmm. Et c'est Boris Johnson qui est venu et qui a dit « Laisse tomber, on va les nettoyer en 3 semaines ». Et je pense que c'est pour ça, en partie pour ça, que Zelensky est aussi maximaliste. C'est pas tellement parce qu'il en veut aux Russes, c'est parce qu'il en veut à son propre camp de l'avoir poussé jusqu'au bout et l'os a du mal à passer. Mais ce que nous souhaitons, en fait, le premier mois de la guerre, c'était fait. Donc c'est possible.
Merci à vous, chers messieurs, pour ce deuxième débat d'excellente facture. On va passer à l'actualité et donc aux top tendances de la journée. Mais avant ça, les petites annonces.
Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme.
Merci à vous d'être si nombreux comme tous les soirs hein, et surtout ce vendredi. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, vous allez en description et vous cliquez sur le lien. Quel est le premier top tendance du jour ? Ah oui, France Travail. Alors qu'est-ce que c'est France Travail ? C'est le nouveau...
c'est le nouveau Pôle emploi.
Nouveau Pôle emploi.
ANP.
Qui a été... ANPE pour les plus anciens.
Pour les vieux. Les vieux chômeurs.
Voilà. qui a subi une attaque pirate où 43 millions de données, de 43 millions de Français, ont été visiblement perdus ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens ?
Incroyable. Écoutez, ça dépend si c'est venu des Russes.
C'est peut-être des Russes, hein.
Si c'est pas des Russes, c'est pas. J'ai pas de.
Mais qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de la France, de l'État français ?
Ce qu'on veut dire, c'est que en fait,
service public.
Sur ce plan-là aussi, qui est le plan de la protection de nos données et de nos agences étatiques, on n'est même pas au niveau. C'est ça que ça dit. On est faible. C'est ça que ça dit, en fait. Et comme c'est une des composantes de la guerre hybride, très importante et de plus en plus importante. Ça en dit long sur nos capacités d'aller casser la figure à l'ours russe.
Oui, pour le coup, ça, c'est vrai. On n'arrive même pas à se protéger de pirates informatiques et on voudrait faire les beaux.
Alors que c'est des. Alors moi, je vais faire ma séquence ultra complète.
Bah vas-y.
C'est fait pour faire disparaître les demandeurs d'emploi. Macron va pouvoir annoncer un chiffre de zéro chômeur après. Non, mais trêve de plaisanterie, je pense que bon, c'est. Je suis pas sûr que ça soit réservé aux Français, hein, ce genre de situation. Les attaques informatiques, les piratages, etc. On n'est pas très bon, mais il y en a qui sont pas beaucoup meilleurs que nous, et même aux États-Unis d'ailleurs. Hein. Oui. Donc c'est un peu le glaive et le bouclier, c'est-à-dire que plus les systèmes savent se protéger, plus il y a des petits malins qui savent les contourner.
C'est vrai.
Donc c'est un business, voilà. Je suis pas sûr que ça ait des conséquences si graves que ça.
Oui, enfin, cher Jérémy,
on est quand même légèrement à poil d'un point de vue informatique. Il y a eu aussi une attaque du site de l'Élysée il y a quelques jours. Il faut quand même savoir que le nom de domaine elysee.fr, il est fourni par un prestataire extérieur. Oui. C'est-à-dire que, en fait, nous ne sommes même pas capables d'avoir des serveurs à l'Élysée qui font leur propre, qui font leur propre nom de domaine. C'est-à-dire que l'Élysée emploie un prestataire inconnu, extérieur,
chinois.
Peut-être chinois ou américain, pour son nom de domaine. Donc, c'est-à-dire que le prestataire en question peut avoir accès à absolument tout ce qu'il veut sur le site.
Voilà.
Je trouve que ça en dit long sur la non-préparation totale, en fait, de notre État. Voilà.
Mais Nicolas, la fonction publique, parabolo. Hein.
Malheureusement, je connais bien le sujet.
Ah bah oui.
Et je suis astreint quand même à certaines réserves pour ça.
Ah oui, c'est vrai.
Mais néanmoins, ce que je peux dire, c'est que au-delà des piratages, on avait vu le logiciel des armées. Pendant plusieurs mois, les militaires n'avaient plus de soldes hein, à Ballard. Capgemini a fait, là, alors je ne dirais pas sur quel ministère, un logiciel financier extrêmement important qui ne fonctionne pas du tout. Il y a c'est plus du déclin, une désagrégation dramatique. Le seul, alors là, la pointe à mon avis de ce sujet, le seul système informatique, logiciel qui fonctionne encore bien, et c'est à mon avis la seule administration, la dernière administration qui fonctionne en France,
ça, c'est Bercy.
T'as compris, voilà, c'est la fiscalité. Mais, alors, je ne devrais pas le dire, mais si nous avons des bons hackers russes, je pense que nous ne sommes plus très loin, cet avril ou mai, la déclaration de nos impôts en ligne. On va voir. On va voir si à ce moment-là, ils sont aussi capables, parce que ça mettrait vraiment à terre, les deux genoux à terre, la France, si demain, elle était privée de ce système extrêmement performant. Imagine ton compte, mon compte, hein, .gouv.fr, ça ne marche pas. Je n'ai pas déclaré d'impôt, j'ai zéro retenue à la source. On peut imaginer ce que ça pourrait donner. Mais là, étrangement, je dis bien, c'est une administration qui réussit, semble-t-il, à éviter les hackers. C'est surprenant.
Bah, si des hackers russes peuvent couper l'herbe sous le pied du système fiscal communiste français, ça ne serait pas plus mal, je pense.
Les remboursements, chacun recevrait 10 000 euros.
Ouais, ouais.
C'est pas mal, ça, quand même.
Là, du coup, la cote de Poutine dans la...
Il n'a pas besoin de la menace nucléaire pour nous envahir.
Il montrait à 80%.
Ah oui, c'est sûr, il y aurait des drapeaux.
Il annonce aux Français qu'ils ne paieront pas d'impôts. Parce
ça pourrait pas mal, ça.
Il a fait sauter le système.
Allez, deuxième top tweet. Patrick Drahi. Voilà, pourquoi Patrick Drahi ? Parce qu'il a vendu son groupe BFM TV RMC à l'armateur Rodolphe Saadé. Donc voilà, c'est la fin de Patrick Drahi, visiblement. Il était embourbé dans les dettes. Nouvel entrant dans les médias français, voilà, monsieur Rodolphe Saadé, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut voir, moi je le connaissais bien en tant
qu'armateur.
Je sais pas, justement.
Oui.
Ça m'étonnerait.
Si, ça changera rien.
Oui.
Ils sont copains, hein, apparemment.
Ouais,
ils sont copains, oui.
D'autant plus que finalement c'est un étranger entre guillemets et qu'il il est plus fragile qu'un national vis-à-vis du pouvoir français parce qu'on peut plus facilement l'enquiquiner et qu'en plus son groupe, alors là je suis intervenu un peu trop tôt, mais c'est un groupe, moi je l'ai vécu quand j'avais des fonctions autres, bon voilà je vais pas en parler non plus, mais qui a vraiment besoin de l'appui diplomatique constant. Ben, il arrive très fréquemment dans la vie internationale qu'un des premiers moyens de pression d'un pays sur un autre, c'est de dire, ah ben voilà, on empêche vos conteneurs de débarquer dans un port. Et bon, là, il faut vraiment l'appui diplomatique du réseau de son pays national pour permettre, par exemple, à CMA, qui est le groupe, voilà, de pouvoir décharger. Sinon, les navires, ils restent là.
Mais CMA, c'est un groupe français.
Oui, mais enfin, bon, c'est un actionnaire, bon, voilà, qui a quand même aussi une origine étrangère. Et donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas être en mauvais termes avec le pouvoir politique. En aucun cas. Alors, il y a un deuxième point, c'est la faillite de
Possible. Bah, Draghi, c'est ça, ouais, Draghi.
Bon, la faillite de Draghi, monsieur, mais le gros problème, c'est que si son groupe dans les télécommunications mord la poussière et s'effondre, alors là, ça va
faire
mal.
Oui, mais attendez, faut pas oublier que monsieur Draghi a été soutenu à l'époque par M. Macron, ministre des Finances, lorsque M. Draghi a voulu acheter SFR lorsqu'il était patron de Numéricable.
Oui, c'est ça, non seulement ça, mais il a été un des contributeurs de la campagne
en
de
plus.
Macron, etc. Donc, c'est non seulement il doit beaucoup à Macron, mais Macron lui doit beaucoup aussi. Mmh. Donc ça veut dire que, quelque part, c'est quand même un des oligarques proches du régime qui mord la poussière. Et ça, c'est quand même étonnant. Alors, je ne connais pas bien... je connais bien Saadé en tant que CMA-CGM, puisque j'ai pratiqué... J'ai fait du commerce international de l'alimentaire donc pendant 40 ans et que j'utilisais beaucoup CMA-CGM... et Maersk Line et ses grands groupes là, pour charger les containers. Je n'ai pas entendu dire, dans tout ce que j'ai eu à faire, qu'il y avait constamment besoin de la diplomatie du pays pour empêcher que je pose des problèmes parce que...
Je l'ai vécu personnellement, alors, par exemple.
Je termine juste. Oui. Simplement parce que je sais par expérience que les pays qui reçoivent les marchandises, ils ont aussi besoin de les recevoir. Donc, ils n'ont pas systématiquement tendance... je dirais, à se servir de la situation et à racketter les compagnies. Alors, ceci étant dit, moi, je voyais ça au niveau du terrain parce que je chargeais sur les bateaux, mais je ne dis pas que ce n'est pas possible, j'en sais rien, en fait.
Bah, moi, je l'ai vécu, non, mais je ne vais pas donner de détails que là, mais je l'ai vécu en Asie, dans un pays important pour... cette compagnie-là, qui à un moment s'est vue refuser le fait de débarquer ses marchandises, et là, il a fallu effectivement un appui diplomatique. Mais bien sûr.
Qu'est-ce que tu en penses ?
J'aimerais profiter de cette affaire Patrick Drahi pour dire quand même que BFM TV avait expliqué pendant le Covid qu'elle suivait la politique gouvernementale et qu'elle attendait les instructions de l'État pour faire ses journaux. Donc, mort de la pluralité des opinions, etc., ça. Du pluralisme. Or, je rappelle que cette semaine, il y a eu dans le même temps une commission contre CNews qui était accusée de manque de pluralité. Ouais. J'attends donc la commission contre BFM.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce nouveau propriétaire ?
Ah, ça ne changera rien à la politique de BFM. Ils attendent les ordres de l'Élysée. C'est tout. Et c'est un copain à Emmanuel Macron, le nouveau président, donc ça ne changera rien. Moi, par contre, j'aimerais
C'est sûr.
J'aimerais une commission, comme ils l'ont fait contre CNews, par rapport à BFM, qui, elle aussi, ne fait pas dans le pluralisme, tout comme France Inter, etc. C'est un deux poids, deux mesures qui est insupportable, en fait.
Les rares fois où j'ai été interrogé sur BFM, c'est lors de campagnes électorales. Moi, j'étais fasciné parce qu'on arrivait à BFM, il y avait des compagnies de CRS, il y avait des gardes-flics en permanence, ils sont sous la protection du pouvoir politique. C'est vraiment un élément de la propagande d'État, quoi. Donc, ça ne changera pas. Et c'est ce que, d'ailleurs, si les gens qui investissent pour acheter ce genre de truc-là, eh bien, ils investissent.
Mais 1,5 milliard quand même. Hein.
Mais bon, c'est rien par rapport à ce qu'ils peuvent obtenir.
Oui,
mais
c'est rien. Qu'est-ce que t'en penses, cher Nicolas ?
Mais ça a été à la cérémonie de Grand Croix. La remise du grand croix de Bernard Arnault, il y était aussi. Et d'ailleurs, comme Bolloré. Bolloré venait juste de sortir de son audition devant le Parlement. Ils y étaient tous. Je pense que Saadé y était pour se faire adouber, entre autres par l'homme le plus riche du monde actuellement. Donc oui, je suis d'accord avec ce que dit Serge. Je pense qu'il n'y aura aucune...
On ne pourra pas te voir à BFM.
Et même pas à CNews.
Et même pas à CNews,
si tu suis mon raisonnement jusqu'au bout.
Donc ça veut dire que l'audition en question, c'était
plus d'ouverture.
L'audition en question, c'était de la blague alors. C'était du cinéma.
Pour moi, c'est du cinéma. Pour moi, c'est un oligarque aussi. Un oligarque, certes, moins riche que d'autres.
Bolloré. 10 milliards d'euros, c'est mal.
Et puis, c'est un homme qui rend des grands services.
Si il y avait des géopolitiques profondes, ça se passerait bien.
Qui rend de très grands services à Macron, entre autres, dans l'émergence. l'influence d'Éric Zemmour.
C'est quand même un grand groupe, le groupe de M. Saadé.
Oui, bien sûr.
Un des plus importants du monde. Aujourd'hui. Il y a Costco Line qui est une des plus importantes.
Ouais. C'est Evergreen le plus important.
Il y a. La compagnie avec le logo bleu là. Il y a Maersk Line et puis il y a ça. Le deuxième au monde aujourd'hui.
Conclusion.
Je ne dis pas que le groupe Bolloré n'a pas aussi des liens avec le pouvoir. Je parlais plus de l'aspect
considérable
vis-à-vis de la gauche en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la gauche en France qui tape sur CNews en l'accusant de ne pas inviter certaines personnes, etc. Ou d'avoir trop de lignes. Or, les autres médias de gauche, eux, ont une ligne. On a Quotidien qui refuse d'inviter la droite, etc. Et par contre, eux, on ne dit rien. C'est plus sur ce deux poids, deux mesures-là. Après, sur le fait que Bolloré ait des liens avec le pouvoir, évidemment.
Donc c'est du folklore.
Oui, mais c'est le comportement de la gauche, moi, que je trouve hypocrite.
On parlait de Poutine, qui était un homme qui réussissait à arbitrer entre des grandes puissances, des oligarques, des nationalistes, des communistes, des libéraux. En fait, nous, c'est un pur... C'est du folklore. On se fout de nous, mais en réalité, ils disent tous à peu près la même chose. Et moi, j'ai toujours fait partie par rapport à ma famille politique. J'ai toujours été très sceptique sur CNews pour une raison simple. C'est qu'à part quelques exceptions notoires, il suffit d'écouter un peu CNews pour se rendre compte qu'ils disent strictement la même chose dans l'information générale que BFM. Exactement la même chose. Et sur les grands moments que sont le Covid, que sont maintenant la Grande Guerre...
Ah oui, c'est, oui,
et je suis bien placé pour le savoir, je ne veux pas faire de mon cas une généralité, mais bon, quand on est un peu trop structuré et qu'on a des discours qui sont trop décapants, eh bien, au bout d'un certain temps, on n'est plus invité.
Voilà, alors, on se retrouve ici.
Je voudrais lancer un appel aux journalistes d'aujourd'hui, aux historiens du futur, parce que cette histoire-là, de la remise de la Grande Croix, à Arnaud, à mon avis, c'est un sujet magnifique.
Ah, mais je trouve aussi.
Bon, voir qui était là, quelles sont les relations.
Qui était là
Il y avait Beyoncé, Elon Musk.
Ouais.
Bon. Donc, on a presque à se faire du souci pour Twitter, etc. En tout cas, dans ses rapports avec la France et dans ce qui sera permis de dire un jour ou l'autre sur ce réseau-là, dans la critique du pouvoir en France, justement Bolloré. Bon, c'était un peu la chanson. Ils sont venus, ils sont tous là. Hein. Même Bolloré, le fils maudit. Hein. Bon, parce que la Macronie va mourir. Donc, on pourrait faire... Je trouve que c'est un beau sujet. Et c'est dommage que je n'ai pas le temps d'y travailler, mais en tout cas, si j'étais journaliste, je m'y attellerais parce que c'est quelque chose de magnifique.
Cher François.
Tout ça dévoile un autre beau sujet qui nécessiterait d'être traité, c'est le rapport entre les systèmes démocratiques et les systèmes oligarchiques. Aujourd'hui, je pense qu'on a changé de paradigme, qu'on n'est pas du tout dans un système démocratique. La preuve, c'est que dans la dernière élection qui a compté, c'est-à-dire l'avant-dernière, le principal opposant a été mis en examen pendant la campagne électorale par une justice qui était aux ordres. Et d'autre part, tous les journaux importants ont pris fait et cause pour le candidat qui est devenu président de la République, à qui elles ont accordé la une pendant toute la campagne. Donc ça, c'est pas la marque d'un système démocratique, c'est la marque d'un système oligarchique. Or, vous remarquerez que dans les systèmes oligarchiques, le problème, c'est que l'oligarchie ou les oligarchies qui sont au pouvoir cherchent une marionnette. Et le but, la peur qu'elles ont, c'est que la marionnette échappe aux marionnettistes. Que ce soit Bonaparte, que ce soit Poutine lui-même. Il y a plein d'exemples comme ça de marionnettes
Hitler.
Qui ont échappé au Hitler, etc. Donc le but, c'est de mettre quelqu'un dont on est sûr qu'il n'aura pas de pouvoir et qu'il restera tout votre contrôle. Alors, c'est ou un gamin ou un vieillard Kakoshim. Quand vous voyez élire ou un gamin ou un vieillard Kakoshim, vous êtes sûr que vous êtes dans un système oligarchique.
Biden, alors, Macron.
Biden, vous voyez Bouteflika à l'époque, vous voyez la paire...
On pourrait dire Trump aussi, Macron, parce que Trump n'est pas tout jeune. Hein.
Oui, mais Trump, il a échappé à... Lui, il a fait que ça, d'ailleurs. C'est d'essayer d'échapper aux marionnettistes. Mais on est typiquement dans tout ce qu'on dit là, actuellement. Le fait qu'il n'y a plus de parole politique du chef. Le chef n'a pas de parole politique, c'est une doxa qui s'exprime. Donc c'est un discours politique collectif qui s'exprime. Le fait que la justice ne s'applique pas, qu'elle est politisée, le fait que c'est les copains et on s'arrange entre les copains, oui, etc. On est absolument clairement
dans
un système oligarchique. Donc, en fait, la question qui se pose quand on dit oui, regardez, nous défendons les valeurs démocratiques contre le système de Poutine, mais tous les pays du Sud, qui sont souvent des potentats ou des types, ils se marrent. Parce qu'ils nous disent, attendez, dites la vérité, quoi. Vous n'êtes pas du tout démocratique. Vous bidouillez comme des malades et vous essayez de nous faire croire que vous êtes démocratique, mais vous ne l'êtes pas. Dites la vérité.
Qui est le premier à dénoncer ça ? Platon. C'est exact. Dans la critique, justement, de la dérive de la démocratie, du pouvoir de l'oligarchie qui était à l'époque, les milieux qui étaient liés au commerce international, il a dénoncé le rôle, justement, de l'influence des commerçants dans la manipulation de la démocratie. Donc, c'est vraiment un problème extrêmement ancien.
Oui, sauf qu'il n'y a rien de
Platon, la dictature.
Si tu te souviens de Platon, Platon ne dit pas ça précisément, parce qu'il dit que la dérive de la démocratie, c'est l'anarchie. C'est pas l'oligarchie. Pour lui, l'oligarchie n'est pas un système.
Ça conduit ensuite à l'anarchie.
Oui, mais dans le système où il dit ça se transforme en ça. Mmh. J'ai regardé justement.
Et oui, parce que je pensais que pour Platon et surtout pour Aristote.
Nous avons transformé la démocratie en oligarchie. C'est pas exactement ça. Enfin, c'est pas dans ce sens-là que Platon le dit. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Je crois que c'est et c'est ça dont je pense les Français. Aujourd'hui, se rendre compte. C'est ce qu'on est en train de dire ici.
C'est le sens et la dérive de toute société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe le régime politique en place, qu'il soit communiste, démocratique, fasciste, etc., il y aura à un moment donné une classe élite émergente qui va finalement entourer et noyauter le pouvoir.
C'est pour ça qu'il faut un régime mixte. Oui. La notion de régime mixte, avec une part de monarchie, une part d'aristocratie, une part de démocratie, avec un équilibre qui permet un équilibre des pouvoirs.
C'est ça, parce que sinon, tu auras toujours un noyautage à un moment donné.
Sauf quand il y a un véritable chef, là, je me souviens, suite à la mort de l'amiral Philippe de Gaulle, là, une interview de son fils, c'est pas Pierre, c'est, comment il s'appelle, Yves, qui dit qu'il était détesté des élites, et d'une partie de l'armée, dit-il, et adoré par le peuple. Donc c'est le type qui assume son rôle, qui consiste à empêcher que, en fait, l'oligarchie mange, qu'elle abuse de son pouvoir par rapport au peuple.
C'est la conception de la Ve République chez De Gaulle, avec le président.
D'une certaine façon, ce que les Russes acceptent de Poutine, c'est qu'il les empêche d'être mangés par l'oligarchie, parce que c'est ce qu'ils ont vécu.
Merci à vous, chers messieurs. Troisième et dernier top tweet, Sciences Po. Voilà ce qui s'est passé à Sciences Po.
C'est trop beau.
Cette semaine, justement, tiens, qu'est-ce que vous en pensez Prenez la parole. Tiens, que celui qui veut prendre la parole.
J'ai encore une anecdote personnelle.
Ah ben vas-y, allez.
Vichra, cette espèce d'Olibrius, à un moment quand il était directeur du cabinet d'Hidalgo, m'envoie un courrier recommandé parce que j'avais publié une information qui venait d'associations de nageurs dans les piscines qui se plaignaient du fait que le club du fils Hidalgo avait trusté toutes les lignes pour nager dans les piscines. Bon. Et donc, ça a l'air de rien, mais dans ce petit milieu-là, ça compte. Et donc, je publie ça sur mon site. Je ne fais que publier cette information. Et je reçois un courrier de Vichra, donc avec en tête de la mairie, oui, on va vous faire un procès parce que vous avez osé parler de la vie privée d'Anne Hidalgo. D'accord ? Mais alors, je publie immédiatement un article en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce crétin qui, sur le papier en tête de la mairie, aux frais de la mairie en tant que directeur du cabinet du maire, me menace parce que je parle de la vie privée, mais il faut savoir, soit c'est la vie privée, c'est elle qui me fait un procès, soit c'est la ville de Paris, mais ils n'ont pas à me faire un procès. Et il était dit au même moment, par la presse d'opinion, oligarchique justement, que Vichra c'était l'énarque le plus brillant de sa génération. D'où j'en ai conclu, si c'est lui le plus brillant, ça donne une idée du niveau des autres. Mais c'est le wokisme est en train de se retourner, de tuer, de dévorer ses propres créatures.
Ce monsieur a dit dernièrement dans une chaîne YouTube Le Crayon que Sciences Po était une grande école de gauche, avant tout.
Mais est-ce que
Émile Boutmy et le roi Beaulieu se retournent
d'aucune façon, parce que moi j'ai vu ça dans pas mal de pays et dans beaucoup de pays africains où en fait les chefs d'État sont faibles et ce sont des groupes oligarchiques qui dirigent. À un certain moment, quand l'oligarchie prend un certain pouvoir, et je pense qu'on le voit en France, vous avez un sentiment d'impunité totale qui se développe. Et ça, ça exacerbe les trois choses dont les personnes ont besoin quand elles se sentent puissantes. C'est le pouvoir, le sexe et l'argent. C'est les trois. Quand vous avez un sentiment d'impunité qui se développe, et ben voilà. Donc, je peux sauter toutes les ce que je veux, les hommes, les femmes, etc. Il m'arrivera rien. La preuve, c'est que un comédien très connu, il est même pas en tôle.
C'est vrai.
Voilà. Je piquerai tout ce que je veux, comme de toute façon, je m'arrange avec les uns les autres. On me placera ici, je toucherai sous une forme officieuse ou officielle d'ailleurs. Voilà. Et puis le pouvoir, j'aurai mon petit pouvoir, d'autant plus fort qu'il ne sera connu de personne, que je tirerai les ficelles et qu'on ne le saura pas. Donc, je ne suis absolument pas étonné de cette dérive. Et elle est, à mon avis, c'est un des aspects typiques du système que j'appelle oligarchique et plutocratique.
Oui, mais le problème des grandes écoles françaises type Sciences Po, c'est qu'elles ont été complètement gangrénées justement par une idéologie qui est d'ailleurs à l'inverse même du principe de l'université ou des grandes études, c'est-à-dire le doute, la pluralité. Aujourd'hui, la gauche a un espèce de magistère sur ces universités. Oui. On voit la même chose aux États-Unis avec Harvard. Oui. Et là, avec ce qui s'est passé à Sciences Po, avec la manifestation pro-Palestine, etc., on a vu des gens même faire des signes nazis. Enfin, c'est invraisemblable, en fait. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui française, les grandes écoles françaises, sont complètement sous la coupe d'une certaine idéologie, formatent les gens avec l'idéologie woke, etc. Le problème, c'est que ces gens, après, sont amenés à occuper les plus hautes fonctions.
C'est
donc,
ça.
On va se retrouver avec quelle génération qui a été gangrénée par quelle idéologie à la tête de l'État demain. C'est très révélateur, je trouve.
Toi qui es un ancien de Sciences Po, qu'est-ce que tu penses de cette évolution ?
C'est très frappant. Je pense que déjà, l'ombre de Descoings plane sur tout ce qui se passe. Il y a une dégénérescence morale. Moi qui suis lecteur de Steiner dit, nous entrons dans une période... Il est décédé aujourd'hui, mais au XXIe siècle, on rentrerait dans une période où l'intellect ne serait rien sans l'acte moral. Ces êtres qui n'ont aucune moralité... Alors, je rappelle quand même que Descoings... À un moment donné, nos édiles plutôt de gauche avaient des problèmes avec les hôtels de Manhattan et de New York, puisque un passage au septième ciel a terminé au troisième étage de l'hôtel Michelangelo, avec des escort boys.
Avec la coque de Gérard Fauré.
Et puis des escort boys, les escort boys de Descoings. Donc ça s'était mal terminé. L'année d'avant... C'était évidemment Dominique Strauss-Kahn qui, à cause d'une glissade non maîtrisée, avait terminé dans La Femme de Chambre. Et on sait les conséquences politiques que ça avait eues sur le personnage. Je dirais que cette immoralité, et donc là, Vichra, c'est pareil, il est envoyé en correctionnel pour avoir plus ou moins tapé à bras raccourcis sur sa femme. Il s'est fait taper dessus aussi, je crois. Enfin bon, voilà.
En tout cas, c'est Madame Drucker.
Oui.
C'est l'ex Madame Drucker.
C'est la nièce.
C'est la nièce
de Madame Drucker. Et puis ils se sont battus, visiblement. Bon,
mais
comme ça. Hein.
C'est un signe qui fait sens, qui pour moi fait sens.
Bien, merci beaucoup, cher Nicolas. En tout cas, merci à vous, chers messieurs, pour cette brillante émission. Vraiment, je ne pense pas qu'on ait de ce type d'émission ailleurs. Non. Vraiment, là, on a fait un très, très beau débat. Donc, François Martin, voilà, journaliste, essayiste, géopolitologue. Votre livre, L'Ukraine, un basculement du monde. Tiens, montrez notre ami François Martin et son livre. Vous avez bientôt des dédicaces, peut-être, ou des conférences ?
Non, pas de dédicaces. Une conférence la semaine prochaine, oui, mais pas de dédicaces pour l'instant.
Une conférence où ça ?
Par Zoom.
Ouais. Bon.
Avec une personne qui s'appelle Monsieur Bouvier.
Nicolas Bouvier. Ah ben on l'a reçu ici.
Ah ben oui.
Youssef Indy qui sera là aussi.
D'accord.
Pense, oui.
Est-ce que vous avez... Où est-ce qu'on peut trouver votre bouquin ?
Sur Internet, je pense qu'il doit être à la librairie Vincent. Il est à la librairie Vincent, voilà.
Donc la librairie Vincent, un nul de la Bourdonnais.
Je pense qu'il doit être aussi peut-être à la FNAC.
Bon, en tout cas, voilà. Merci en tout cas pour...
Il a bien marché.
C'est un excellent débat. Hein.
Merci.
Merci à vous.
Moi, je Serge, fait tout le monde, ouais, c'est vraiment... Je m'attendais à me faire entrer dedans et ça a été...
Ah, bah, tout de suite. Serge Federbuch, essayiste, éditorialiste, ancien élu parisien qui a écrit sur la crise sanitaire du 10e arrondissement, qui a écrit sur la crise sanitaire. Prochain livre, il sort quand là ? Ben, on l'attend, ce livre.
Bah oui, il faut que bon, je fasse ça avec peut-être un peu plus de sérieux.
Enfin, bah oui,
normalement,
là,
ça sort en septembre et c'est, ouais. Ça, je l'ai déjà dit, donc.
Il est fini ça, ou ça, pas là ce
Oui, il est terminé. Bah il alors, est terminé. Alors bon, c'est jamais fini un bouquin, mais ça s'appellera Le Sabre. Ah,
c'est
et
sûr
l'esprit.
Que si tu fais que l'amender, ça
s'appellera Le Sabre et l'esprit et wow. Ça qu'on parlera justement de la confrontation entre le modèle de la mondialisation et celui de l'État-providence, mais à travers l'histoire, pour montrer que ça existe depuis que, finalement, les cités existent et que les structures humaines se sont développées.
Et voilà, 25 mars, Serge Federbuch sera en débat avec notre ami Pierre Hilar. Ce sera ici le 25 mars. D'ailleurs, je lui ai donné le pavé de Pierre Hilar voilà. qu'il va lire. Voilà. Bah tiens, mais montrez Pierre Hilar, montrez notre ami voilà. Serge, voilà. Alors, il va lire ce
Pierre
livre.
Il y a Pierre Hilar et il y a Serge qui est Hilar. Et on
voilà.
Va... Facile.
Merci beaucoup voilà. À toi, cher Serge. Jérémy Marquis, président du mouvement Jeune France, et vous, est-ce que les adhérents affluent là ?
Ah, je ne sais pas, mais...
Bah, j'espère bien.
Ils sont d'or.
Voilà.
Jeune et brillant, je dois... Voilà.
Bah oui, il faut faire venir des jeunes.
La
là,
fleur
faut...
de lys, bon, abattez, soyez français, vous êtes royaliste ?
Pas du tout. Ah non, pas du tout.
Parce que je vois une fleur de lys.
Oui, oui, en fait, c'est un. Parce que tout le monde l'associe forcément au royalisme, c'est aussi un symbole de l'histoire, de la civilisation, c'est pas simplement un symbole royaliste. Donc voilà, je trouvais que ça rappelait l'histoire de notre pays, d'accord. Tout simplement.
Toute l'histoire. Toute
bientôt
l'histoire,
des nouvelles voilà. Vidéos, des nouvelles vidéos ah, sur oui, les TikTok, bah, tous les jours.
Je sors une vidéo tous les jours sur Instagram.
Comment t'arrives à faire ça ?
Twitter. Je ne dors pas.
Voilà.
Non, c'est du travail, mais voilà, je trie.
Tu fais le montage toi-même et tout ?
Ouais, je fais tout seul. Putain, alors, tout seul. Même les montages. Écriture, tournage, montage et publication.
Ah bah, voilà. On va donner des cours à celui-là, là, parce qu'il ne sait pas
moi,
faire.
Moi, je suis incapable de faire ça, c'est mon gros problème.
Ah ouais, bah, voilà. Il faut...
Merci à toi, cher Jérémy. Merci. Et enfin, Nicolas Stocker, qui sera présent demain matin à Radio Courtoisie. Libre journal de Géopolitique Profonde. Qui tu reçois demain matin ?
Bruno Gollnisch, qui part juste après plusieurs semaines au Japon se reposer, voguer dans son Orient lointain qu'il aime tant. Et donc, il nous fait la fleur de
vous
venir
de quoi
juste avant. Je dirais de toute son expérience des députés européens au travers le monde, une voix de la France, lorsqu'il y avait justement une voix de la France au travers le monde, et ce qu'il a pu faire. Il nous parlera même du... Bah justement, on a parlé du conflit coréen. À un moment donné, lorsque ça se passait très mal entre Trump et Kim Jong-il, il a fait partie de ces députés européens dépêchés sur place pour éviter ce qui... On a frisé l'affrontement nucléaire.
Encore une érudition exceptionnelle.
Un type d'une érudition...
On écoutera, d'ailleurs, surtout que je passe après toi, d'ailleurs. Donc,
et qu'est-ce que tu... Pas. Toi, tu invites... Tu as qui ?
Alors, je vais inviter quelqu'un que tu connais, que t'aimes bien. Notre amie Véronica Antonelli.
Ah
la soprano. On va parler de Montmartre, on va parler un peu de Montmartre.
Oui, les copains de Montmartre vont être enchantés.
Voilà. Merci à vous d'avoir été si nombreux, plus de 6000 personnes entre YouTube et Twitter. Merci de votre confiance. N'oubliez pas d'aller, tiens, sur notre Discord, là, on est en plein tirage au sort, vous pourrez gagner une lettre de Géopolitique Profonde, voilà. Vous aurez un mois gratuit de Géopolitique Profonde et de ces articles. Merci à vous, passez une excellente soirée et au prochain live. Allez, salut, ciao!
Vous aimez Géopolitique Profonde ? Nous aussi, on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots ? Alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité, cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple, gratuit, et cela ne coûte aucun effort. Alors cliquez donc sur ce bouton.